Salut à tous et bienvenue sur fanf1.com pour cette émission spéciale du SAV de la F1 consacrée à Roland Ratzenberger et Ayrton Senna. Alain Prost a dit un jour « La perte est irréparable, nous le savons tous. Mais nous savons aussi que le temps passe et fait oublier les douleurs les plus vives. C'est vrai que ça fait encore mal, mais dans le monde de la course, on ne peut pas toujours penser à des événements comme celui-là, ils s'estompent. En revanche, personne n'oublie vraiment, on n'en parle pas, mais on y pense. Cela fait désormais 17 ans que la Formule 1 n'a plus été endeuillée. Nous n'y pensons pas à chaque Grand Prix, fort heureusement, mais nous n'oublions pas non plus que le sport que nous aimons tant et qui nous fait parfois vibrer si fort le dimanche après-midi est aussi l'un des rares sports à pouvoir nous offrir un spectacle aussi dramatique que celui qui nous a été donné de voir un dimanche à Imola en 1994. Certains d'entre nous ont vécu ces événements, d'autres n'en ont qu'un lointain souvenir, alors que certains ne l'ont connu que sur papier glacé, mais nous sommes tous marqués d'une manière ou d'une autre par ce week-end de mai 94 qui a vu disparaître coup sur coup un pilote débutant et une idole. Mais comme l'a dit un jour Juan Pablo Montoya, c'est une spéciale citation, nous pensons qu'il vaut mieux célébrer leur vie que leur mort. Alors c'est pour cette raison que je suis heureux d'accueillir à mes côtés Shinji, mon traditionnel acolyte, Benoît, auteur de la chronique Pit Stop, et nos chroniqueurs Charles et Antoine. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien. Une pure soirée.
Non, très bien. C'est juste fait insulter en arrivant, mais c'est très 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 bien.
Ah, la Belgique s'en rebelle.
C'est quand même bien que tu dises bonjour.
Alors messieurs, juste comme ça pour commencer, histoire de vous présenter, parce qu'on se connaît pas, est-ce que vous pourriez juste rapidement dire qui vous êtes, vous présenter quand vous avez découvert la Formule 1, voilà, ce genre de petites choses.
Honneur à qui?
Honneur à la Belgique.
Ah, honneur à la Belgique. Donc je suis bien le seul Belge, c'est triste.
c'est bien, un Belge c'est bien,
Ouais, quand il y en a un, ça va, c'est quand même plusieurs.
Que ce soit la frite.
Donc moi, Benoît, hein, Dino l'a très bien dit. Je suis l'auteur donc de la chronique Pit Stop chaque semaine sur Fan F1. La F1, je l'ai découverte c'est en 99. Pardon, si vous êtes français, vous n'êtes pas bilingue. Donc ça fait maintenant plus de 11-12 ans. Mais je me souviens que j'étais devant ma télé en 94 pour le Grand Prix d'Imola. Voilà, en gros, c'est ça. D'autres infos, non?
C'est comme tu veux.
C'est en 1993 que naquit Benoît, dans le petit village de Namur.
Bon, je vais me lancer.
Oui.
Moi, c'est Charles, donc nouveau rédacteur sur fanf1.com. J'ai 23 ans. Donc je suis pas là de toi Benoît, je suis d'origine de Valenciennes, si tu vois où c'est.
Oh la région pourrie, oh.
Non mais non, trop pas, le nord c'est la vie. En plus il fait bon en ce moment, c'est cool hein. Sinon alors moi la F1, j'ai un très vague souvenir donc du Grand Prix par rapport à Imola. Je me rappelle pas être devant la télé c'est à cette époque-ci, on va dire que j'ai commencé à regarder il y a à peu près une dizaine d'années. Ça va faire 10 ans que je ne loupe quasiment aucune saison et voilà. Donc je suis un grand grand fan et plus particulièrement de Red Bull. Oui, je sais, ça va faire des bruits, mais bon, voilà. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur moi.
Antoine alors?
Moi, comme l'a dit Léo, hein, je m'appelle Antoine. Donc j'ai 20 ans. J'ai un de Lorraine, encore un gars du Nord. Hein. Bon, par contre, chez nous, il fait pas beau.
C'est habituel, quoi.
C'est entre le Nord et la Belgique, en même temps.
Voilà.
Je pense que...
voilà.
Donc, pour le Grand Prix d'Imola, j'en ai aucun souvenir, personnellement. Vu que, bon, j'avais 3 ans et quelques. C'est un peu tôt.
Oh la vache.
Mais je sais, tu te prends un gros coup de jeu, là. Ah, mais ouais. Bon. Sinon, la F1, je regarde depuis tout petit, tant que divertissement, mais c'est vraiment depuis 4-5 ans que c'est devenu une vraie passion. Et je suis devenu rédacteur sur fanf1.com l'année dernière.
Shinji,
26 ans, venant de Normandie, où, comme d'habitude, il pleut ce soir.
C'est pas vrai.
Oh si, il pleut.
Non, c'est l'eau qui tombe de ce qu'il a plu aujourd'hui. Pas pareil.
C'est vrai.
Faut distinguer.
Découvreur de la plus grande taille de pizza au monde, ainsi que du nombre de saucisses qui existent en Allemagne. Et accessoirement présentateur du SAV de la F1. regarde la F1 depuis bien 17 à 18 ans. Voilà. Et vraiment bien depuis une dizaine d'années. Et toi, Dino, hein, tu te présentes pas?
Ah, j'espérais passer à côté. Bon alors, vous parlez un peu de ma vie. Non, Dino, animateur du SAV depuis donc 3 ans bientôt. J'ai découvert la Formule, enfin j'ai des souvenirs de Formule 1 étant gamin. J'ai 27 ans donc. Début des années 90. Je me rappelle, ouais, c'est moi le plus vieux ce soir. Oh l'horreur. Je me rappelle Imola 94, enfin c'est pas trop l'accident dont je me rappelle, mais c'est surtout être devant le Grand Prix en famille. Enfin je me rappelle que c'était un moment qui mobilisait la famille alors qu'on regardait pas forcément le Grand Prix d'habitude. Et premier souvenir de Formule 1, c'est 96-97, à l'époque où Schumacher était un challenger, ce qui a fait de moi un fan de Ferrari. Voilà.
Pour le pire et pour le meilleur.
Ça, il fut le meilleur à une époque, et puis maintenant c'est le pire.
Ah, le pire. Il y a quand même Carty Kayan aussi maintenant. Hein.
En même temps, tu regardes maintenant avec leur antivirus, maintenant on pourrait même dire que c'est le pire tout pire.
Non monsieur, tu sors, tu quittes cette émission.
De toute façon tu me couperas pas au montage comme la dernière fois donc.
Ah mais il y a que moi que je coupe hein, ça faut le savoir. Alors messieurs, cette émission nous allons donc la consacrer à Roland Ratzenberger qui nous a quitté donc lors de la séance de qualification le 30 avril 1994 et à Ayrton Senna qui nous a quitté donc le 1er mai au 6e tour du Grand Prix de Saint-Marin. Alors on va tout de suite s'excuser auprès de nos auditeurs. Bien évidemment, on souhaite dédier cette émission aux deux pilotes, mais bien évidemment, il y a une réalité historique et statistique qui fait qu'on va surtout parler d'Ayrton Senna plus que de Roland Ratzenberger, même si on va parler de Roland Ratzenberger. Mais voilà, ça, c'est un peu la cruauté de ce week-end d'Imola, c'est que une mort en a éclipsé une autre, ce qui n'est pas juste. Donc voilà, par avance, on s'en excuse et on espère malgré tout que tout ce qu'on pourra dire sur Roland Ratzenberger sera pure justice à sa mémoire. Et on dédie également de cette émission à tous les pilotes qui nous ont quittés en faisant leur passion. Et globalement à tous ceux qui nous quittent en faisant leur passion, qu'ils soient pilotes, sportifs ou travailleurs ou voilà.
On pourrait aussi parler aussi des encadrants, puisque le dernier décès qu'il y a eu sur un Grand Prix, c'était malheureusement un commissaire de piste.
Alors messieurs, je vous propose tout de suite de commencer par un petit quiz qui va nous permettre de découvrir les carrières hors F1 de Ayrton Senna et Roland Ratzenberger. Dans un petit jeu qui s'appelle Roland Ayrton ou les deux.
Burger Quiz.
Nous avons des références communes, c'est bien.
C'est bien. Ah.
Alors, nous allons vous donner un fait qui concerne l'un des deux pilotes, ou les deux, et à vous de nous dire si c'est Ayrton, Roland, ou les deux.
Ah, c'est plus clair que le concours top position quand même.
Alors, si je vous dis autrichien.
Ratzenberger.
Tout le monde est d'accord?
Oui, bah oui.
Effectivement,
non, c'était pas très très dur ça.
Il a commencé super dur.
Effectivement, il est autrichien.
Brésilien peut-être pour la suite, non?
Eh bien oui, la deuxième question c'est brésilien.
C'est merde.
Là que c'est dur.
Ah, on a fait simple d'abord, hein. Enfin, fallait s'adapter.
Oui, hein. On marche au diesel ce soir.
Donc, bien évidemment, c'est Ayrton qui est brésilien. Né en 1960.
Ratzenberger. Non, c'est non.
Donc, Charles, tu dis Senna.
Moi, je pense que c'est Ratzenberger.
Ratzenberger pour Ben. Et Antoine.
Antoine.
Ayrton Senna.
Eh ben, messieurs, c'est les deux. Puisque Ayrton est du 21 mars, et il venait donc de fêter ses 34 ans, alors que Roland Ratzenberger allait fêter ses 34 ans, lui, le 4 juillet. Même s'il faut noter, petite anecdote intéressante concernant Ratzenberger, c'est que, pour être sûr de qu'on ne juge pas sur son âge, il avait tendance à se rajeunir de 2 ans pour continuer à attirer les sponsors, parce que voilà, c'est mieux d'être plus jeune, déjà à l'époque.
Vice-champion du monde de karting.
J'aurais dit Senna.
J'aurais dit les deux.
Enfin, les deux.
Bah, Senna sûr, mais on va dire Senna.
Ouais, moi j'aurais Senna aussi.
Eh bien en effet, c'est Senna. Donc il a participé au championnat du monde entre 78 et 82, sans jamais être titré. Comme quoi, hein, on peut ne pas être titré en karting et avoir une grande carrière en F1. Et donc, il a été vice-champion du monde en 79 et 80.
Bravo, monsieur.
Bravo, je dirais qu'il allait de mi-point, il a dit les deux.
je suis un petit jeune, j'ai des excuses.
Non, il n'y a pas d'excuses ici, monsieur.
Joker. J'ai moins de l'avis de l'audience. Bon, elle pourra répondre que dans 2-3 jours, même.
Alors, attention. Champion Formule Ford 1600 britannique sur une Van Diemen.
Senna.
Ratzenberger.
Ratzenberger, ouais.
Donc, c'est qui a dit Senna?
C'est moi.
Oh, c'est dommage pour ceux qui ont dit Ratzenberger, puisque c'est effectivement Ayrton Senna, qui a remporté même deux championnats lors de la même année, le championnat RAC et le Townsend Torsen Championship en 81. Ratzenberger, quant à lui, a été champion d'Allemagne de Formule Ford 1600, mais en 85. Oui, il a été vice-champion, excuse-moi, vice-champion de Formule Ford 1600 Allemagne en 1985.
Et donc, logiquement, qui a remporté le Formule Ford Festival avec Van Diemen?
Bah, Ratzenberger.
Ouais, Ratzenberger.
Antoine?
Je plus soif.
Ouais, bah ouais. Parce que si tu dis forcément, c'est-à-dire qu'il y a une suite logique.
Mais il y a peut-être un piège.
Non, quand tu dis ça, le problème. Dis les deux. Parce que logiquement, quand tu écoutes ces deux-là, le mot logiquement, il faut que tu arrives à faire un carré avec un rond.
Parce qu'on peut vous faire croire en fait qu'il y a un piège et qu'en fait il n'y a pas de piège. Ou peut-être qu'en fait il y a un piège.
Là tu me mets le doute là. Non, je vais rester sur Ratzenberger.
Et ben en effet, c'est Ratzenberger qui a remporté donc l'édition 1986 après être parti de la pole position.
Alors ensuite, a participé au championnat britannique de Formule 3 avec la West Surrey Racing.
Je pense que c'est Senna aussi.
Moi je dirais les deux.
Et ben moi je vais dire Ratzenberger.
Donc c'est Antoine qui dit les deux?
Oui.
Et ben bravo Antoine, effectivement. Les deux ont disputé le championnat britannique de Formule 3 avec la West Surrey Racing. Senna l'a d'ailleurs remporté en 1983 après une âpre bataille avec Martin Brundle. Roland Ratzenberger, quant à lui, va effectuer deux saisons en Formule 3 en 87 et 88, dont la première avec la West Surrey Racing pour laquelle il a signé deux podiums et une 12e place finale. La même année d'ailleurs, il termine 5e de la Formule 3 Euro Series avec une victoire à mettre à son actif pour donc Roland Ratzenberger.
Alors ensuite, encore une grande course. Qui a gagné le Grand Prix F3 de Macao?
Ah, oh, tu nous poses des colles.
Ratzenberger.
Ouais, je suis d'accord.
Je dirais les deux, mais sans grande conviction.
Eh ben, c'est Ayrton Senna pour sa première édition. Alors par contre, Dino, tu n'as pas marqué l'année. Donc je sais juste que c'est sa première édition, bah, mais c'est je sais pas en quelle année.
Je crois que c'est 83, puisque c'est au terme de sa saison 83, donc normalement c'est 83. Et d'ailleurs, c'était la première édition de ce Grand Prix de Macao.
Je pensais que c'était la première pour Senna, mais d'accord, c'est la première.
D'ailleurs, je crois que c'était aussi, alors, de mémoire, ça devait être dans l'écurie de Yip, qui est à l'origine donc du Grand Prix de Macao, et qui était l'un des patrons de l'écurie Théodore, je crois.
Ouais.
Alors, ensuite, a participé au championnat WTCC.
Ratzenberger.
Ratzenberger.
Pareil, ouais.
Effectivement, c'est Roland Ratzenberger qui a participé donc à la première édition de ce championnat, qui a bien failli être la seule, puisque c'était le championnat de voitures de tourisme, championnat du monde, qui a eu lieu en 1987, puisque en fait après c'était le TCC, avant de revenir le WTCC en 2003 ou 2004, je crois. Et donc il a signé 3 podiums cette saison-là pour le compte de l'écurie Schnitzer.
Ensuite, qui a roulé sur Porsche en endurance?
Je dirais Ratzenberger. Moi je dirais Ratzenberger.
Je dirais Ratzenberger aussi.
Eh bien, c'est les deux. Senna a fait une tentative lors des 1000 km du Nürburgring en 1984, à côté de Pescarolo et Stefan Johansson. C'était sur une Porsche 956 de la Jost Racing. Et donc Ratzenberger, quant à lui, il a participé carrément au championnat du monde de prototype, ainsi qu'aux 24 heures du Mans en 1989, sur une Porsche 962C. Et il va y participer 4 autres fois entre 90 et 93.
Il faut d'ailleurs préciser que il devait participer aux 24 heures du Mans en 1994
oui.
Pour le compte de l'écurie Sard. Et en fait, comme il est mort, il a été remplacé par Eddie Irvine. Mais sur la voiture, il y avait toujours le nom de Roland Ratzenberger. Et ils ont fait deuxième de la course, l'écurie Sard. Ils ont même, d'après ce que j'ai cru comprendre, je suis pas expert des 24 heures du Mans, mais ils ont même failli gagner la course. Et c'est sur des problèmes moteurs, je crois, qu'ils ont perdu la course sur la fin. Mais voilà, donc ça aurait pu être un bel hommage pour Ratzenberg.
Oui.
Alors ensuite, a participé au championnat DTM.
Ratzenberger.
Pareil.
Oui.
Vous êtes sûr?
Parce que j'aime pas ça.
Eh ben, c'est en effet Ratzenberger qui prendra deux départs en DTM sur une Mercedes 190E2.3-16. Je sais pas comment ça se dit. En marquant un point. Il faut cependant signaler que Ayrton Senna a fait l'inauguration du nouveau Nürburgring en 84 en compagnie de Niki Lauda et de Carlos Reutemann sur la même voiture.
Meilleur championnat.
Enfin, c'était vraiment du gala pour inaugurer le nouveau Nürburgring.
Sinon, qui a remporté deux victoires en championnat d'endurance japonais?
Ayrton Senna.
Ratzenberger.
Je vais dire Ratzenberger aussi.
Mais en effet, c'est Ratzenberger qui a fait une longue carrière aux côtés d'Irvine, Frenzen, Villeneuve ou Salo, donc dans ce championnat d'endurance.
Bon voilà, messieurs, c'est tout pour les carrières un peu mélangées de nos deux pilotes. Et malheureusement, c'est à peu près tout pour Roland Ratzenberger, puisque donc Ratzenberger va faire ses débuts en 94. Est-ce que vous vous souvenez de l'équipe de Ratzenberger?
C'était avec une Simtech, non?
Effectivement, c'était Simtech. Est-ce que vous vous souvenez, question encore plus péchue, est-ce que vous connaissez le nom du designer de cette Simtech?
Wow.
Il me semble d'ailleurs qu'on en a parlé dans un SAV récemment.
Patrick Frey?
Non.
Bah alors là.
On peut dire que c'est quelqu'un qui est encore là.
Bah, Adrian Newey?
Non.
Non. C'est trop.
Oui. Et on peut même dire que dans les circonstances de l'accident de Ratzenberger, il est vierge de tout soupçon.
Et ceux qui connaissent la réponse se disent « Ah bah oui, c'est un nouveau monde. »
La réponse B.
Eh ben non, c'est pas ça.
C'est pas le gars qui est chez Virgin maintenant?
Non.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est même s'il ne s'appelle pas le gars, mais...
Oui, non, mais c'est parce que je tombe plus sur son nom. C'est... celui qui s'est
lancé. C'est Nick Weirthwirth.
Voilà, c'est ça. C'est celui qui s'est lancé dans le 100% CFD et qui ne s'est pas encore rendu compte qu'il s'était planté.
Voilà, exactement. Aussi, anecdote, une question. Suite, malheureusement, à l'accident tragique, qui avait décidé le dimanche de prendre un drapeau autrichien?
Ayrton Senna.
Et d'ailleurs, ils l'ont retrouvé dans sa voiture après l'accident.
Oui, ils l'ont retrouvé. Il espérait, bien évidemment, le brandir en cas de victoire pour lui rendre hommage. Bon, malheureusement, c'est ce qui s'est passé.
D'ailleurs, il s'était rendu sur les lieux de l'accident dans la foulée de l'accident de Ratzenberger. Il est monté dans la voiture médicale et il s'est rendu sur place, quoi, 10 minutes à peine après l'accident, alors que la séance n'avait pas encore repris. Quand il est revenu dans le stand Williams, il a annoncé à toute l'équipe que Ratzenberger était mort, alors qu'officiellement Ratzenberger n'est pas mort sur le circuit.
Mais d'ailleurs, ça lui a pas valu quelques réprimandes, justement, auprès de la FIA, il me semble.
Le fait d'être allé sur les lieux de l'accident.
Voilà.
C'est un truc qu'il avait l'habitude de faire, il l'a fait plusieurs fois, je crois.
Il a déjà fait un Francorchamps une fois, aussi.
Pour Coma. 94, il me semble. Non. Pas 94.
Ouais, 13,
je sais qu'il l'a fait. Et, comment dire, il était même dans sa Formule 1 à l'époque, et il s'est arrêté en plein milieu de la piste pour aller le sortir de sa voiture.
Il lui a sûrement sauvé la vie ce jour-là.
Et lui a sauvé la vie. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que dit Coma.
Après, faut rappeler que Ayrton Senna était quelqu'un qui s'impliquait vachement, vraiment énormément sur la sécurité sur les circuits.
C'est un paradoxe d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Donc, autre petite question sur Roland Ratzenberger, sur sa courte carrière en Formule 1. Est-ce que vous pouvez me dire ses résultats lors des deux premiers Grands Prix?
Non. Pour ma part, non.
Alors, en fait, lors du premier Grand Prix, il n'a pas réussi à se qualifier. Il a réussi à se qualifier au Grand Prix suivant, c'était Pacifique, je crois, donc à Aïda. Par contre, je me rappelle plus le résultat qu'il avait fait. Et donc, il essayait de se qualifier à Imola. Et c'est aussi ce qui explique un peu la détermination de ce pilote avant son accident, puisque j'ai cru comprendre que lors de son accident, il avait fait une sortie de piste. Il avait perdu un bout d'aileron dans le tour avant son accident. Et après avoir fait quelques virages, j'ai constaté que bon, finalement la voiture se comportait pas si mal. Et sachant que son tour chronométré lui permettait pas de se qualifier, bah, il est allé à la détermination et il s'est dit, voilà, je vais faire un tour de plus, je vais essayer de battre mon temps pour me qualifier. Parce qu'il faut savoir qu'il avait un contrat apparemment seulement pour 5 courses avec SteamTech. Et que, en fonction de ses résultats sur les 5 courses, le but du jeu, c'était d'attirer des sponsors pour pouvoir faire toute la saison. Et donc, même s'il était très heureux de participer, ne serait-ce que prendre le départ d'un Grand Prix de Formule 1, voilà, c'était quelqu'un de très heureux de ça. Il a vraiment joué le jeu et il a pris, il a décidé de faire ce dernier tour qui sera son dernier tour, puisque c'est son aileron avant, je crois, qui a lâché et qui fait qu'il est parti directement dans le mur du virage Villeneuve. Voilà, donc c'est un personnage qui est assez étonnant quand on apprend à le découvrir parce que.
Et d'ailleurs, je t'ai trouvé le résultat. Il termine 11e à la course.
Ouais.
Je peux pas dire le contraire. Mais ça me laisse sans voix en fait.
Non, mais c'est vrai que c'est une émission, on n'a pas forcément envie de délirer quoi, parce que voilà quoi.
Bah si, moi je pense juste au contraire justement qu'il faut en parler. Enfin, justement, en ayant le sourire. Donc, enfin, moi, je trouve que c'est un bel hommage que de lui rendre ça, justement, avec un peu de déconnade, entre guillemets. Bon, il n'en faut pas trop non plus, mais avec un minimum.
Voilà, c'est ça.
Voilà, tu vois, c'est un bel hommage. On se retient quand même.
Il y a forcément une certaine gêne et une certaine. Même si, justement, le propos de l'émission, c'est effectivement de revenir, enfin, de célébrer leur vie plus que de célébrer leur mort, même si on est obligé, à un moment donné, de parler de leur mort. Mais alors. Maintenant qu'on a parlé de Ratzenberger, on va se concentrer surtout sur Ayrton Senna. Et j'ai une première question toute simple. Je vous donne une citation, vous essayez de me trouver qui l'a dite. Et cette citation, c'est « Senna était le meilleur pilote qu'il y a jamais eu ». Qui a pu dire cela ?
Alain Prost ?
Non.
Lewis Hamilton ?
Non.
Nigel Mansell ?
Non.
Mais c'est du champion du monde, on peut dire, déjà.
Michael Schumacher ?
Non.
Niki Lauda ?
C'est Niki Lauda, effectivement.
Pour une fois qu'il dit un truc gentil sur un autre pilote.
Oui, non, il dit. Non, Niki, il dit plein de trucs sympas.
Oui, c'est un peu comme Flavio et Bernie. Il dit beaucoup de conneries, mais c'est sympa.
Donc, c'est effectivement Niki Lauda, triple champion du monde, quand même, qui dit ça d'Ayrton Senna. C'est quand même une certaine preuve, peut-être pas forcément de l'humilité. Mais voilà, quand un pilote, on vient à reconnaître qu'un autre pilote, palmarès égal, est le meilleur pilote de qu'il ait jamais vu, c'est significatif.
C'est sûr. Mais pour beaucoup de gens, c'est le plus grand.
Tiens, d'ailleurs, c'est une question intéressante, ça. Pour vous, est-ce que Senna est le plus grand pilote ?
Je sais pas si c'est le plus grand pilote, mais pour moi, en tout cas, c'est un pilote qui a marqué l'histoire de la Formule 1. Pour diverses raisons. Le fait qu'il s'implique justement dans la sécurité des pilotes et autres, mais enfin je pourrais pas dire si pour moi en tout cas ça a été le plus grand pilote qu'il peut y avoir jusqu'à présent.
Personnellement, je le vois plus, enfin je sais que s'il était avec nous maintenant, il serait pas au même rang qu'il a pu être dans le passé. Senna, c'était vraiment quelqu'un qui pouvait ressentir la voiture, comme enfin maintenant c'est remplacé par toute la télémétrie, tout ça. Et c'était quelqu'un qui était un superbe metteur au point, qui arrivait à sentir le moindre petit défaut de la voiture, tout ça. Donc ça reste un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Et sa trace est là et restera, et y restera.
C'est vrai que c'est une question toujours un peu difficile, ce genre de question, parce que voilà, on le voit bien quand on s'est présenté au départ, on a tous 20, moi je suis le plus vieux, j'ai 27 ans. Quand Ayrton il est mort, je venais juste de fêter mes 10 ans. Faut reconnaître que même si, enfin moi, à 10 ans, c'est pas la F1 que je regardais. Moi, à 10 ans, le dimanche après-midi, après le poulet frites, je préférais aller jouer dehors avec le voisin, faire le con dans la rue quand il faisait beau, plutôt que de m'enfermer chez moi à regarder la Formule 1. Et c'est vrai que c'est toujours un peu difficile d'avoir un regard sur un pilote que t'as très peu vu rouler, parce qu'en plus ton regard, il est toujours un petit peu déformé par, je dirais. La norme, enfin ce que tout le monde dit, tout le monde nous dit que Ayrton Senna c'est le plus grand, donc finalement on s'en convainc nous-mêmes.
Faut voir l'aura qu'il avait, hein. Quand on repense ne serait-ce que bah ses funérailles, c'est des funérailles de chef d'État qu'il a eu.
Il y avait 3 millions de personnes, c'est plus que ce qu'il y a eu aujourd'hui pour le mariage de Kate et William.
Voilà, là Dino est content, il a enfin placé son mariage. Hein.
Voilà. Je vous avais dit que je savais quand je le placerais.
Défilé, cortège, tout le gratin du sport automobile, sauf une personne, mais ça on pourra en reparler. Et puis cette image, c'est Max Mosley, mais c'est pour une raison très intéressante. Et puis, parce que bon, nous, ça va, on s'en souvient, cette image du cercueil,
ouais,
et du casque.
Et bah, la scène où on remet le casque à sa sœur, je crois, à Viviane.
Et mais ne serait-ce même que cette image du cercueil, du casque, souvent, on parle, tu sais, aujourd'hui, des pilotes qui changent tout le temps de casque, qui... Il a plus ce côté un peu sacré qu'il avait auparavant, où il identifiait le pilote à ce point. Et là, c'est un peu la quintessence de tout ça. Voir ce casque au-dessus, malheureusement, du cercueil, c'est une image extrêmement forte.
Mais c'est ça aussi qui est symboliquement très fort. Enfin, ce genre d'image, le casque de Senna sur son cercueil, moi, ça me rappelle, je crois, c'est les funérailles de Mitterrand où il y avait son Labrador, si je me trompe pas. Et il y avait aussi, sans doute, l'une des images les plus marquantes, c'est les funérailles de Kennedy, de John Fitzgerald, hein, pas le frère, mais les funérailles de Kennedy, où on voit son fils faire le salut militaire. Voilà, c'est le genre de funérailles où il y a une valeur symbolique. Et d'ailleurs, en faisant les recherches, je suis tombé sur un commentaire assez intéressant d'un anthropologue brésilien qui dit que au Brésil, la spécialité brésilienne, c'est le talent brésilien, c'est pas le football, c'est pas le carnaval, c'est pas la samba. Il dit le talent du Brésil, c'est le deuil national. Et il dit on a réussi à mobiliser 3 millions de personnes dans la rue pour finalement un pilote de Formule 1 dans un pays où le football est le sport roi et où même si Ayrton Senna est un très grand champion, les gamins des favelas qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir ambitionner un jour, ne serait-ce que de faire du karting, ne rêvent pas de devenir Ayrton Senna, mais rêvaient plutôt de devenir Pelé. Et il dit, tout d'un coup, Ayrton Senna, il est devenu quelqu'un d'autre par le fait simple de sa mort et par le fait que le Brésil, même si certains ne connaissaient pas Ayrton Senna ou n'en avaient qu'un vague souvenir, avait finalement su
unifier son pays derrière lui.
Unifier son pays, voilà, vivre un vrai chagrin national. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, on a l'impression que quand quelqu'un meurt au Brésil, tout le peuple brésilien pleure. Et c'est un peu le truc. Enfin, voilà, c'est un peuple qui est d'une passion et on en a déjà parlé plusieurs fois dans le SAV, c'est ne serait-ce que la manière de célébrer, on va y revenir dans pas longtemps, mais la manière de célébrer les victoires des pilotes brésiliens, il y a un truc quoi, la solidarité brésilienne, enfin Senna c'est un exemple, mais quand les jeunes pilotes brésiliens arrivent pour faire la F3 en Europe, en tout cas à l'époque de Senna, ce sont leurs aînés qui sont déjà installés en Formule 1 qui accueillent les jeunes pilotes pour les aider dans leur démarche, pour les aider à s'habituer à un nouveau pays, au climat, à trouver une maison, etc. Et par exemple, on sait que Ayrton Senna, ses premiers mois en Europe, il les a passés avec Chico Serra. Ouais, c'est ça, c'est Chico Serra. Et qu'il a notamment, très rapidement, alors que c'était qu'un pilote de F3, il a été encadré par Emerson Fittipaldi. Voilà. Et j'ai beau chercher, je trouve pas d'autres exemples d'une telle solidarité entre pilotes nationaux. C'est assez dingue, quoi.
Et juste pour revenir par rapport à la remarque que j'ai faite sur Max Mosley, il était déjà président de la FIA, hein, faut bien voir.
Ouais.
S'il n'est pas allé aux funérailles de Senna, c'est pour une... Moi, j'ai envie de dire quand même une bonne raison. Il s'en est expliqué, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Puisque alors, là encore, c'est un signe du destin. C'est que le même jour, il y avait les funérailles de Roland Ratzenberger. Et donc, au lieu d'aller aux funérailles de Senna, où il savait que tout le monde irait aux funérailles de Senna, il a fait le choix d'aller aux funérailles de l'Autrichien, pour que justement il soit pas encore une fois ignoré et dans l'ombre justement du Brésilien, encore une fois. Alors Dino.
Alors, on parlait justement de Niki Lauda qui a fait cette tournée à Senna. Une petite question, est-ce que vous connaissez, outre le fait qu'ils ont tous les deux été triple champions du monde, le point commun qui unit Ayrton Senna et Niki Lauda?
Un rapport avec une écurie?
Non.
C'est le nombre de victoires?
Non.
Ils vont avoir un film sur eux?
Il y a un film sur Loda.
C'est vrai que Niki Loda, apparemment, il se murmure qu'il pourrait y avoir un film sur la vie de Niki Loda. Ah. Mais c'est pas un point commun qu'ils n'ont que tous les deux, puisqu'on sait qu'il y a un film, je crois que sur Graham Hill qui est prévu. Nous, ce qu'on veut, c'est un vrai point commun que eux deux seuls partagent.
Tain, tu me casses mon idée, là.
Bah, dis toujours, on sait jamais.
J'aurais dit que ça part, comment dire, c'est un rapport avec un titre qu'ils auraient pu avoir, un titre honorifique.
Non.
Le nombre de pole position?
Non. Non, Loda est très très loin derrière. Enfin, très loin derrière, en tout cas.
Est-ce qu'on peut dire que c'est relatif au titre?
Oui, on peut dire que c'est relatif au titre.
Ils ont eu le titre sur le même circuit?
Non.
Avec le même nombre de points?
Non.
Dans la même écurie?
Non. Même si c'est vrai qu'ils ont été tous les deux champions avec McLaren, mais ce ne sont pas les seuls champions du monde avec McLaren. Allez, c'est facile! Ah, je dis ça.
Ouais.
Toi, t'as la réponse sous le nez, c'est facile, oui, c'est ça.
Ah, voilà.
Ils ont tous les deux battu Alain Prost dans la même équipe.
C'est vrai,
mais c'est pas ça.
C'est pas ça. C'est un rapport avec leur titre.
Plouf.
Je peux vous dire même que ça a un rapport avec le premier titre d'Ayrton Senna et le premier titre de Niki Loda. C'est un point commun qu'ils ont partagé tous les deux pour leur premier titre.
Pour le premier titre. C'était sur des moteurs turbocompressés, non?
En 75, Loda, non.
Ah oui, c'est vrai, Loda, non. Ils ont fait une superbe remontée lors de la dernière course, je sais pas.
Non, c'est pas par rapport à une course.
Ça a vraiment un rapport avec la voiture.
C'était une McLaren.
Ah, mais non. En tout
cas, c'est une Ferrari. Pour deux voitures rouges, mais il y en a une qui est plus belle que l'autre.
Eh bien, je donne ma langue au chat.
Ouais, pareil.
Oh, les petits joueurs, oh. Ouais. Réfléchissez, une voiture de Formule 1.
Il y a quoi sur une voiture?
Oui, il y a... Alors, 4 roues, un volant, des suspensions...
Ils ont été champions sur 4 roues, bravo!
Ah oui! Attends!
Attention!
Ce sont les deux seuls champions de Formule 1.
Je n'ai pas dit qu'est-ce qui compose une voiture. Qu'est-ce qu'il y a sur la voiture?
Bah, les sponsors.
Ils étaient sponsorisés par le même sponsor au moment de leur titre?
Non.
Ah mince.
En plus, c'est que moi qui sors des conneries, alors bon.
Oui.
Non, c'est pas loin derrière. Mais j'attends le bon moment, tu vois.
Non, nous, on fait comme Hamilton en 2008. On attend que tu fasses une connerie et hop.
Allez.
Lui, en plus, il est fourbe. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a sur la voiture?
Un pilote.
Non, le pilote, il est dans la voiture.
Bah, il y a l'aileron.
S'il est sur la voiture pour être champion du monde, c'est moins facile. Ah, moi, je dis ça, je dis rien.
J'irais même qu'il y en a sur toutes les voitures.
Mais ce ne sont pas les mêmes.
Les ailerons.
Bien sûr, ils ont pour point commun d'avoir tous les deux titrés avec un aileron.
La même livrée de la voiture?
Non. C'est pas un Pierre Prost qui a été titré avec la même livrée.
Le même constructeur. Ah mais non, McLaren, bah oui.
Bien sûr, Ferrari, McLaren, c'est bien, on ressort pas des vieux dossiers et tout.
Ouais, techniquement, parfois c'est le même constructeur, on est bien d'accord, mais bon.
Qui a dit en 2007?
Ah moi, c'est ma McLaren préférée.
Et notons que ce qu'on cherche est toujours sur les voitures.
Oui.
Enfin, il y a beaucoup de choses quand même sur les voitures.
D'ailleurs, je peux même dire...
Moi, je sais pas quoi dire, hein, parce que à moins de mettre une grosse flèche sur là où ils doivent chercher, je leur ai déjà dit plein de trucs.
Fais un récapitulatif des indices, voir.
Donc, ça concerne le premier titre. C'est sur la voiture. C'est quelque chose qu'il y a sur toutes les voitures de F1. Mais c'est pas les mêmes. Et il y en avait à l'époque, il y en a encore aujourd'hui.
Je peux même vous dire qu'il pourrait avoir un point commun avec Paul Di Resta, mais c'est mal barré.
Non mais un indice c'est censé nous mettre sur la voie, pas tu vois, nous embrouiller encore plus.
Ah, faut bien réfléchir.
Je vais chercher un miroir, je reviens.
Ah non.
Allez, on va rajouter un indice.
Ils avaient le même numéro sur la voiture.
Eh ben bah, bravo.
Voilà.
Oh là. Et donc, les deux étaient titrés champions sur la voiture numéro 12.
En fait, on était vraiment pas super loin, quoi.
Oui.
Ah ouais.
Donc la preuve qu'en sortant énormément de conneries, au bout d'un moment, tu trouves la bonne réponse.
Bah, en même temps, au bout d'un moment, t'en as plus à dire, quoi. Donc t'as pas trop le choix.
Donc rappelons donc que les numéros sont sur la voiture, qu'il y en a sur toutes les voitures, mais qu'il est différent puisque chacun a son numéro.
Donc ils ont tous les deux été champions sur la voiture numéro 12. Petite question subsidiaire comme ça, est-ce que vous seriez capable de nous dire quels étaient les deux autres numéros de voiture avec lesquels Ayrton Senna a été champion?
Numéro 2.
Non, puisqu'en 88, effectivement, il était le numéro 2 de McLaren, mais il avait le numéro 12.
Je sais qu'il y a des pilotes avec le numéro 0, mais il n'en fait pas partie, il me semble.
Il y a un numéro qui est... Voilà, quand vous pensez aux titres, aux années des titres, il y a un numéro qui est évident.
Il a été deuxième en 89, donc il était, comme il était champion en 90, il a été champion avec le numéro 2.
Non.
Moi, j'ai dit tout à l'heure, mais non.
Puisqu'en 89, le champion, c'est Alain Prost.
Le numéro 1.
Alors, il a eu le numéro 1 lors de son titre en 91, puisqu'il a, il avait eu le titre en 90. Donc, en 91, il a participé au championnat avec le numéro 1. Et il a été champion avec le numéro 1.
Et le numéro 27.
Ah non. Et le numéro 27, effectivement. Puisque, même s'il a fini deuxième et que Prost était champion en 89, en 90, Prost a quitté McLaren et est parti chez Ferrari. Ce qui fait qu'il a emmené avec lui le numéro 1 et le numéro 2 chez Ferrari. Ferrari, ayant cédé le numéro 27 et le numéro 28 qui était le sien depuis 1981, ils ont filé les numéros à McLaren et donc Ayrton Senna s'est retrouvé à être champion avec le numéro 27. Donc
aujourd'hui, se taper le numéro 27, oula.
c'est plus possible, on va dire. Quoi que pour la HRT bientôt, hein, quand il y aura des GP2 dans les courses de F1.
Alors, vu qu'on est dans le palmarès, est-ce que vous seriez capable de nous donner les grands chiffres du palmarès de Senna? Nombre de départs, par exemple.
100 de départs. Non, c'est 67.
Oh non, 67, c'est
Non, 167.
100... Non, 160 ou 162, quelque chose comme ça.
161 départs
pas loin,
en Grand Prix.
Hein, c'est pas mal,
ah, j'étais pas loin. Hein. Ouais.
À noter que, en fait, il a 162 engagements, mais qu'il ne s'est pas qualifié à Imola déjà en 84.
Ah bah, c'est peut-être ça le chiffre qui m'a trompé.
D'ailleurs, il aurait pu avoir un 163e engagement et un 162e départ, puisqu'il n'a pas participé au Grand Prix d'Italie de 1984. Savez-vous pourquoi?
On peut rappeler qu'à l'époque, il était encore chez Tolman.
Il a eu un différent avec son équipe.
Oui, il est pas.
Il a eu un différent avec son équipe.
Oui, il a signé pour une autre équipe et il a été viré du coup, non?
Effectivement, il a signé avec Lotus alors qu'il était encore sous contrat avec Tolman et les patrons de Tolman n'ont pas vraiment apprécié, donc ils ont décidé de taper du poing sur la table et ils l'ont tout simplement suspendu une course. Donc il n'a pas participé au Grand Prix d'Italie à Monza, mais il est revenu pour la fin de saison avant donc d'aller chez Lotus en 85. Plaisante pas chez Tolman, hein. Ils ont quand même viré pour un Grand Prix le mec qui leur avait rapporté le meilleur résultat toute leur histoire.
Il les avait
français. Oui. Français Tolman.
C'était obligatoire. C'était obligatoire.
Non, mais fais la garder, celle-là.
Non. Oh, je choupe mon micro.
Alors, justement, comme on parle des équipes, est-ce que vous pouvez citer toutes les équipes pour lesquelles il a couru?
Il y en a quatre.
Ouais.
Tolman, Lotus, McLaren, Williams.
Oui, effectivement. Tolman, Lotus, McLaren, Williams. À noter que Williams, il a couru deux fois. Il a couru en 94. Et il a aussi fait un roulage, son premier roulage en Formule 1, c'est avec Williams. Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous citer, il a eu 10 coéquipiers sur l'ensemble de sa carrière, est-ce que vous pourriez nous citer les 10?
Bah, Alain Prost.
Oui.
Et qui n'a pas été le pilote avec lequel il a été le plus coéquipier.
Oui, ils ont fait 32 Grands Prix ensemble.
Il a été avec Berger aussi.
Oui, 48. Qui est le pilote avec lequel il a le plus roulé, 48.
Il a fini chez Williams, c'est avec Hill.
Tout à fait, il.
Chez McLaren, il me semble qu'il a fait équipe au moins un an avec Hakkinen.
Trois Grands Prix.
Et par contre, les autres, du temps de chez Lotus, là je sèche.
Bah, déjà chez McLaren, la même année que Hakkinen, il y a eu quelqu'un d'autre.
C'est d'ailleurs pour ça que Hakkinen a pu rouler avec lui. C'est
oui, avec Andretti.
Exactement.
Oui, Michael Andretti, effectivement.
13 Grands Prix.
Donc. Berger, Andretti, Prost, Hill, Hakkinen. Il vous en manque quelques-uns. Il vous en manque 4, je crois. 5 même.
Bah, il manque le début, en fait, avant.
Ouais. Notamment son coéquipier chez, si je ne me trompe pas, Tolman. Son premier coéquipier.
Oh, celui-là, il va être dur.
Un Colombien.
Non, franchement, celui-là, ils ne peuvent pas le trouver. Hein.
Pourtant, il a l'un de ses fils, je crois, qui pourrait faire de la Formule 1 ou qui fait. Ancien champion moto, d'ailleurs, de mémoire.
Checotto.
Checotto, effectivement,
en GP2.
Il y a un autre Johnny, d'ailleurs, avec qui a été son coéquipier. C'est Johnny Dumfries, avec lequel il était coéquipier en 1986, chez Lotus.
Et il en reste trois qui sont trouvables.
Elio De Angelis.
exactement.
Oui, effectivement. Elio De Angelis, coéquipier en 85.
Il n'y avait pas Nakajima.
Nakajima.
Tout à fait, Nakajima. 87. Chez Lotus, 87. Et le dernier, il a fait deux grands prix avec lui. C'était chez Tolman, d'ailleurs.
En 84.
Johansson.
Tout à fait.
Stéphane Johansson. Qu'il va d'ailleurs, alors je crois que c'est lui qu'il remplace chez McLaren. Je crois que McLaren avait engagé Johansson en 87. Ils attendaient, fin 86, ils savaient qu'ils allaient avoir Senna en 88. Il fallait trouver un pilote en 87, donc ils ont engagé Johansson pour le virer en fin d'année pour laisser le baquet libre à Senna. Donc ça va, vous êtes pas mauvais, dis donc.
Ouais, enfin, c'est quand même le plus jeune qui a trouvé toutes les réponses.
Ouais, bravo.
Ouais, bravo.
Que ouais.
Le plus jeune a des ressources inexploitées.
Allez, facile, nombre de victoires.
41. Ah non, ça c'est Prost, 41.
37, j'ai 41.
Ouais, je dirais une quarantaine.
C'est 41, effectivement, c'est 41. Prost, c'est 51. Nombre de pole position.
65, c'est facile.
C'est fastoche, hein, c'est un record qu'il a longtemps détenu.
Ouais, c'est 69 pour Schumacher, c'est ça?
Ah, il dit Schumacher! Ah, il y a dans la Belgique!
Donc c'est 68 pour Schumi, c'est ça? Hein.
Tout à fait!
Voilà.
Meilleur tour?
C'est à Monaco, non?
Non, mais c'est la meilleure. Avec... Le nombre de meilleurs tours en course qu'il a fait. Ah, c'est à Monaco, je crois qu'il colle une seconde 5 à Prost.
Ouais,
à
Monaco, c'est.
Un petit score, temps, je temps. Trouve d'ailleurs, pour ses meilleurs tours.
Oui.
4?
Non, un peu plus quand même.
Une vingtaine.
Le Sénat.
Ouais, 23.
C'est 19.
Bravo.
Il est dans la hiérarchie des pilotes ayant signé les meilleurs tours. Il est le 12e au nombre de meilleurs tours. Et en fait, il a un ratio de 11,8% de ses grands prix où il a signé le meilleur tour. C'est-à-dire un grand prix sur 10 seulement, il a signé le meilleur tour.
C'est déjà pas mal. Après, je pense qu'il attaquait bien au départ pour un peu à la VTT.
Ah, c'est, voilà, oui, c'est ça le truc. Hein, c'est que, il n'avait pas forcément tout le temps besoin de faire le meilleur tour.
Oui, c'est un peu du genre à la Vettel, attaquer dès le début et après temporiser.
Oui, ouais, un peu ça, oui.
Oh, tu fais des comparaisons avec Vettel.
Ça veut dire que c'est moi, les pilotes de maintenant sont plus une base par rapport à...
D'ailleurs, c'est pas le seul qui fait la comparaison, il y a un responsable de chez Toro Rosso qui a fait la même, je pense.
Giorgio Ascanelli, voilà. Qui a chef mécanicien, je crois, de Senna chez McLaren.
Peut-être, je ne confirmerai pas.
Qui a travaillé avec Schumacher. Et qui a travaillé donc chez Toro Rosso, qui était d'ailleurs le patron de Toro Rosso, qui est d'ailleurs toujours le patron de Toro Rosso, je crois. Enfin, le patron, le team manager de Toro Rosso, et qui a travaillé donc à l'époque où Vettel courait pour Toro Rosso, notamment avec sa victoire à Monza. Et enfin, le nombre de podiums.
Déjà, il y en a au moins 41.
Oui.
Oui.
Déjà. 120, vers là.
120.
Ah, moi j'aurais dit moins.
120, ça fait quand même quasiment 3 podiums sur 4 courses pour 4 courses disputées.
J'aurais dit 85. Parlant.
Vous êtes autour de 80, vu qu'il a déjà 41 victoires.
Ça me c'est paraît. 80 podiums tout rond. Grosso modo, c'est un podium toutes les deux courses. C'est pas un ratio dégueulasse.
Ah non, là.
Plutôt que non, ouais.
Mais il y a plus haut, hein.
C'est un peu le problème de Senna, c'est qu'il y a plus haut à chaque fois. Donc.
Enfin, quand il y a plus haut, c'est jamais n'importe qui a plus haut, hein.
Enfin, bah, c'est toujours le même, hein.
Ouais.
C'est un peu lassant, mais on s'y fait.
Enfin, lui, on sait qu'il améliorera plus grand-chose, quoi.
Je n'osais pas le dire.
Je proteste. Même si je confirme, je suis obligé, morphologiquement, de protester. C'est dans mon ADN.
Non, mais c'est bien pour Rosberg, hein. Il se fait sa pub en étant devant lui tout le temps.
Mais il n'aime pas Rosberg, alors c'est pas un truc à dire, quoi. Dans le SAV de la F1, plus Rosberg est pas, et ben plus Dino est content.
C'est pas, non, c'est pas vrai. Je proteste.
Alors, dès que Rosberg est en dessous de Schumi, t'es content.
C'est voilà, c'est juste que Rosberg, quand on le voit pas, on le voit pas, c'est tout.
Mais c'est parce que tu regardes trop derrière, en fait. Il est devant Schumacher, ouais. Tu vois. C'est question
voilà, je regarde trop Schumi, donc je vois pas.
C'est comme dans le dernier Grand Prix, on savait pas où il était. Ah, il est premier.
Oui. Alors, maintenant, une petite question à propos d'Ayrton Senna, une petite question à la sauce SAV, pour ceux qui connaissent l'émission depuis quelques temps, une petite question à la manière de la question qui passe inaperçue, puisque je voudrais savoir, en 2009, que pouvait-on acquérir pour la modique somme de 238 000 livres sterling?
Modique somme, quand même, hein.
Oui, c'est toute petite somme.
Pas les gants de Senna?
Non.
J'aurais dit une combinaison.
Non. On ne donne pas d'indice, hein, chez D, on les laisse.
Ah, non, non.
Ouais, j'avoue. Puis des rames. Donc, c'est un moteur, quoi.
Non. C'est bien.
Non, la phrase n'était pas un indice. Hein.
C'était pas en 2009, c'était lors d'une vente à Monaco, non? Il y a eu une vente, il me semble, non?
Alors, je peux pas vous dire si exactement ça a été vendu. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a estimé à ce prix-là.
Son casque?
Non.
Le volant? C'est
un volant d'une monoplace, ouais.
Non.
Non. Pensez à la devise. Ce sont des...
Livre. Un livre sur Ayrton Senna.
Un bouquin à 250 000 euros.
Non, mais un livre qui lui aurait appartenu ou je sais pas.
C'est rien qui lui a appartenu.
Ah, mais c'est en rapport avec Ayrton Senna.
Ça a un rapport avec Ayrton Senna. Sinon, bien évidemment, je ne poserai pas la question.
Et ça lui appartient pas. Bah, les droits du film qui doit sortir, hein.
Non, non.
Et si on joue à ni oui ni non?
Bah, pour le moment, c'est plutôt ni oui ni oui. Hein,
parce que... Ouais, bon, c'est bon.
C'est pas souvent dit oui avec vous. Hein.
Ah, ça peut venir.
Oui, mais faut me faire boire avant. Donc, je rappelle la question, hein, que pouvait-on acquérir en 2009 pour 238 000 livres sterling? Ça n'a pas appartenu à Ayrton Senna. Ça n'est pas un livre sur Ayrton Senna, ni les droits du film Senna, qui sortira le 25 mai prochain, si je ne me trompe pas.
Le droit de se comparer avec lui, je sais pas.
Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'il doit passer à la caisse, Lewis Hamilton?
Une photo qu'il aurait fait sur un Grand Prix, non?
Vous êtes beaucoup trop près d'Ayrton Senna.
Ouais. Ah.
Je peux même vous dire, c'est quelque chose qui n'existait pas du vivant d'Ayrton Senna.
Une visite à McLaren pour voir toutes les voitures qui...
Ça aurait pu être, mais non.
Essayez encore.
Je vous dirais même, ça a finalement aucun rapport avec la Formule 1.
Non. Oh là là.
Alors, pourquoi tu nous poses cette question?
Parce que ça a un rapport avec Ayrton Senna. En dehors d'Ayrton Senna, ça n'a aucun rapport avec ni ses écuries, ça n'y a pas appartenu, c'est...
Un objet qui porterait le nom d'Ayrton.
Non.
Sa maison, son chien, je sais pas.
Ouais, c'est chien. Vous vous approchez.
Ouais, son chien ou sa maison?
De sa maison. Techniquement, c'est pas sa maison.
Non, c'est pas sa maison.
Donc voilà, on peut un peu préciser la question. Hein. En 2009, on pouvait acquérir pour 238 000 livres sterling une maison qui n'était pas celle d'Ayrton Senna. Maintenant, voilà, débrouillez-vous.
De Bruno Senna?
Non,
ça n'a rien à voir avec Bruno.
De toute façon, il a passé de ce pour s'acheter une maison.
Une maison où il aurait séjourné?
Non.
Et Benoît, je trouve qu'il a pas beaucoup d'idées.
Non mais je vous laisse ramer, hein, c'est... voilà.
Non mais Benoît, il cherche un gouvernement déjà, c'est pas mal alors.
Moi je suis en affaires courantes, donc...
Donc effectivement, on pouvait acheter une maison qui n'était pas celle de Senna, d'ailleurs qui n'a jamais appartenu à Senna, et qui n'était d'ailleurs pas construite. Moi je l'aime bien cette question, Shinji.
Elle est bien, ouais, elle est bien.
Moi je l'aime pas.
Elle est un peu vicieuse, mais j'aime pas. Pensez à la particularité que pourrait avoir cette maison.
Forme de S?
Non. Attends, la meuplée.
Elle serait aux abords du Grand Prix de Silverstone? Ou de Newton Park?
Non. C'est pas bête de dire c'est aux abords d'un circuit. C'est effectivement la particularité de la maison, c'est finalement la maison, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est là où elle se trouve.
À Bennington Palace.
Bennington Palace. Généralement, une maison, ça se trouve où?
Franchement, tu vois, cette réponse, j'ai envie de te la mettre. Mais... J'ai déjà fait la dernière fois et je vais éviter de leur faire. Ça se trouve sur un terrain.
Oui, ce terrain, il est où?
Dans une rue.
Ah, dans une rue.
Dans une ville.
Une rue qui porterait son nom.
Mais ben voilà, bravo.
Oui.
En 2009, on pouvait acquérir pour 238 millions d'euros une petite maison dans un ensemble pavillonnaire dans la rue Ayrton Senna. Ah, c'est pourri comme question, je sais.
Ah là oui.
Alors, il faut quand même noter que c'est la Ayrton Senna Road à Tilhurst, une impasse résidentielle, et il se trouve que à Tilhurst, Senna y aurait vécu quelque temps. Alors, j'ai trouvé deux versions. Soit il y avait vécu au début de sa carrière, au tout début, avant même qu'il fasse de la Formule 1, à l'époque de la F3. Soit il y aurait vécu, au contraire, à la toute fin de sa carrière. En tout cas, il aurait eu un pied-à-terre à l'époque de Williams. Et donc, il a vécu à Tilhurst. Et après la mort d'Ayrton Senna en 1994, la ville a décidé de donner son nom à une rue. Et cette rue, d'ailleurs, elle a une petite particularité, c'est que c'est une rue très sûre puisqu'il y a 3 dodanes ralentisseurs, hein, pour vraiment montrer que c'est une rue très sûre, on peut pas aller vite. Voilà. Donc il y a une rue Ayrton Senna où vous ne pouvez pas aller vite, c'est impossible.
C'est un peu un paradoxe quand même. C'est...
Alors j'ai un petit peu cherché sur internet les rues Ayrton Senna. Bon, bien évidemment des rues, des places, des boulevards Ayrton Senna. Au Brésil, il y en a une palanquée. Il y a une rue Ayrton Senna en France. Et donc, c'est encore une fois une rue résidentielle à Saint-Pierre-du-Perret dans l'Essonne. Il y a aussi une Ayrton Senna Strabe à Hockenheim, non loin du circuit. Et également une Ayrton Senna Road en Australie à Wingfield, en périphérie d'Adélaïde. Donc c'est c'est quand même très rare d'avoir des rues qui portent le nom d'un pilote de Formule 1 et c'est vous dire à quel point voilà pour qu'il y ait des rues à Saint-Pierre-du-Perret dans l'Essonne qui portent le nom d'Ayrton Senna, c'est quand même
le maire devait être fan de F1.
Ouais.
Et justement, moi c'est ça qui m'interpelle, c'est autant près d'Hockenheim et près d'Adélaïde. Là ouais, je suis d'accord parce que un circuit pas loin. Mais alors autant en Essonne. Je me demande pourquoi ils sont allés donner le nom à Ayrton Senna. Dans un sens, tant mieux, il y en a une en France, mais en Essonne, quoi.
Shinji, je te laisse ouvrir la prochaine question.
Prochaine question, puisqu'on parle de nom et de route, on va quitter la route et on va s'intéresser au circuit. Parce que Ayrton Senna a donné son nom à un certain nombre de virages. Et donc la question, elle est très simple. Quels circuits ont un virage du nom d'Ayrton Senna?
Sao Paulo.
Voilà,
ouais, Lagos de Senna. Alors, effectivement, il y a Sao Paulo. On peut quand même vous dire qu'il y en a 8 virages sur les circuits ayant accueilli la Formule 1. Il y a 8 virages qui portent le nom de Senna. C'est le nom de pilote qui est le plus souvent donné à un virage. Derrière, c'est Ascari qui a 4 virages à son nom. Et bon, j'ai une liste qui est assez complète, mais bon, je m'attarderai pas dessus.
Est-ce que tu comptes les 2 virages de Interlagos comme un seul ou t'en comptes vraiment?
Oui, c'est un seul. Ouais. Quand je dis 8 virages, c'est 8 sur 8 circuits en fait. Ouais.
Est-ce qu'il n'y en a pas un à Melbourne aussi?
Melbourne,
il y en a un. Alors d'ailleurs, ce qui est en plus assez drôle à Melbourne, c'est que le virage Senna, c'est le virage numéro 14, je crois, celui qui est juste avant l'entrée des stands. Et le virage, donc c'est le gauche avant l'entrée des stands. Et le virage à droite qui va sur la ligne droite, c'est le virage Prost. Donc vous rentrez dans Senna avant de rentrer dans Prost.
Il n'y a pas Monaco, je pense.
Monaco, non.
Ou Nürburgring.
Non, justice.
C'est bizarre, le nombre de victoires qu'il a fait.
Il y a la chicane du port qui pourrait très bien, plutôt que de s'appeler Nouvelle Chicane, s'appeler Chicane Senna, par exemple.
Sur le Nürburgring, il n'y en a pas un?
Non.
À Silverstone?
Non. Non plus.
Donington Park?
Non. Non plus. Silverstone, Nürburgring, t'étais pas loin, Ben.
Hockenheim.
Hockenheim, effectivement. Alors, il n'y a plus de virage qui s'appelle Senna à Hockenheim, puisque c'est la troisième chicane sur l'ancienne Hockenheim Ring qui se passait à travers la forêt. C'était la dernière chicane avant d'arriver sur le stadium, qui s'appelait d'abord Brems 3, et qui en 94, donc après la mort de Senna, a été rebaptisée pour s'appeler la chicane Senna, jusqu'à donc la nouvelle, le massacre du circuit par Herman Tilke 2003, je crois, où cette portion tout entière de trois lignes droites, enfin trois grandes courbes et trois chicanes a été rendue à la nature.
Alors, vous avez trouvé trois.
Donc, Hockenheim, Melbourne et Interlagos.
Canada?
Oui.
Oui.
Moi, j'ai vu que c'était le deuxième virage, mais je me demande si c'est pas en fait l'enchaînement du premier et du deuxième virage qui forme un S, donc qui s'appellerait Senna.
Senna, ouais.
Et qui avait un autre nom avant, d'ailleurs. Hein. Je sais plus quel nom c'était. C'était la... Sud Erpine ou un truc dans le genre.
Budapest, non?
Non.
Non.
Pas Budapest.
Mais pas de nom de virage à Budapest d'ailleurs.
À Valence, ils en ont pas sorti un, non?
À Valence, je dirais. À Valence, non.
À Barcelone, oui.
À Barcelone,
non plus.
À Barcelone, c'est que des noms de marques de bagnoles ou de marques de pneus ou de sponsors.
Jerez.
À Jerez, effectivement, il y a un virage qui s'est, enfin, il y a une chicane qui s'appelle Ayrton Senna Corner. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que le circuit de Jerez est revenu au calendrier en 94, après avoir disparu en 90, je crois. Et donc, ils avaient fait des modifications au circuit. Et après l'accident de Senna, comme le Grand Prix avait lieu en fin de saison, ils ont décidé de modifier un virage qui s'appelle aujourd'hui le virage Alex Crévillier. Ils ont décidé de modifier ce virage qui est une grande courbe à droite, d'en faire en fait une chicane qui porte le nom donc d'Ayrton Senna. Et ça a été fait vraiment dans l'été pour le Grand Prix de 94.
Il y en a pas un aussi à Estoril,
3.
Au Portugal.
Oui, il y en a un à Estoril. C'est même la Parabolica Ayrton Senna. C'est, je crois d'ailleurs, le seul virage qui porte le nom de Senna qui n'est pas une chicane.
Suzuka?
À Suzuka, non. Alors qu'il le mériterait tout comme Prost, parce qu'ils ont quand même écrit les plus belles pages de l'histoire de Suzuka.
Oui, clairement, c'était... J'ai pu retrouver des images à Suzuka, les deux là.
Bah, en plus, c'est les, je crois que le premier Grand Prix de Suzuka, c'est 88 ou 87. Voilà, donc en 88, 89, 90, c'est un petit peu les meilleures années du duel Prost-Senna. Tous à Suzuka, ça a un petit peu fait la promotion de Suzuka. Il vous reste donc deux pays, deux circuits qui ne sont pas au calendrier. Qui ne sont plus au calendrier.
Plus.
Manicourt, peut-être.
Manicourt, non. Puisque Manicourt, les noms de virages sont les noms des circuits sur lesquels ils ont été copiés.
Ouais.
Ça, je connaissais pas l'anecdote, là.
Sur lesquels ils ont été inspirés, dirons-nous.
Ouais.
Ce qui n'est pas un tort, hein.
Voilà.
Allez, c'est deux circuits des années 90.
Ça m'aide pas beaucoup. Charles et Benoît, vous jouez.
Il y a un circuit dont on a parlé il y a à peine 5 minutes.
Adélaïde.
Adélaïde, effectivement, la chicane Ayrton Senna, qui est là, il y a le départ et vous avez une chicane gauche-droite, je crois. C'est la chicane Ayrton Senna. Et le dernier, c'est un pays sud-américain.
L'Argentine.
L'Argentine,
effectivement, Buenos Aires. C'est l'enchaînement du virage 11 et 12 qui s'appelle le Senna.
Senna.
Voilà.
En fait, c'est que des chicanes, de toute façon, quasiment. Donc.
À signaler quand même que c'est toujours un truc qui a toujours suscité chez moi de la curiosité, qui m'a toujours un petit peu étonné et que je suis content de pouvoir ressortir aujourd'hui. Je m'étais amusé à faire il y a quelques années une recherche sur le prénom Ayrton Senna. Enfin sur le prénom Ayrton et sur le prénom Senna, mais surtout sur le prénom Ayrton, dans des sites de prénoms qui donnent des statistiques sur le nombre de fois où le prénom a été donné. Et donc j'ai été sur prénom.com et il se trouve que le prénom Ayrton a été donné pour la première fois en France, selon ce site-là, en 1985, avec la naissance de 4 petits Ayrton. Ce chiffre va passer à 14 en 1989. Hein, donc c'est l'année qui a suivi le premier titre d'Ayrton Senna. Ce qui est d'ailleurs rigolo, c'est que ce chiffre va baisser en 90 et en 91 au plus fort du duel Senna-Prost, hein, qui se sont affrontés en 90, en 89 et 90. Donc automatiquement, les années qui ont suivi, les gens ont un petit peu moins donné le nom d'Ayrton. Et le chiffre va remonter à partir de 92. Suite au titre de 91 où Ayrton est titré sans véritablement affronter Prost, en tout cas pas aussi terriblement que lors des saisons précédentes. Et ce chiffre va véritablement exploser en 94, puisque après la mort d'Ayrton Senna, on a 52 personnes qui vont, enfin 52 familles qui vont appeler leur nouveau-né, ils vont l'appeler Ayrton. Et on va atteindre un maximum les deux années suivantes, en 95 et en 96, où on aura 55 petits Ayrton sur ces deux années chacune. À savoir qu'aujourd'hui, je crois, en 2008, les derniers chiffres, c'était 44 ou 45 Ayrton qui sont nés en France en 2008. Donc ça m'a toujours un petit peu étonné de voir comment les gens... Enfin, c'est super morbide quand même de donner le nom de quelqu'un qui vient de mourir à ton gosse, quoi. C'est voilà, enfin pour moi en tout cas, je trouve ça un peu morbide.
C'est même le fait de donner le nom de, enfin que ça soit un pilote de Formule 1 ou un chanteur, hein, le fait de donner un nom parce que t'es fan d'une star ou quelque chose. Enfin, moi je trouve ça un peu, je trouve ça un peu décalé, quoi.
Le nom devient médiatique et rentre dans les esprits.
Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu le poids symbolique qu'a Ayrton Senna. On sait qu'on a dit que c'est un grand champion. On a rapidement parlé de son palmarès. C'est un champion qui a marqué en tout cas les esprits, que ce soit dans le quotidien, dans les rues, que ce soit dans le sport où plusieurs virages ont reçu son nom, ou tout simplement dans les mentalités en France par exemple, où il y a eu effectivement toute une génération de petits Ayrton. Qui aujourd'hui sont à l'école, au collège ou au lycée, et qui nous écoutent peut-être.
J'ajouterais même qu'on a un chat qui s'est appelé Ayrton, chat Ayrton.
Ça là, tu vois, ça là, ce qui est bien, c'est que je peux la garder, sans m'excuser auprès de Jean-Luc Moncey.
Et nous, en Belgique, on a envoyé un Sénat dans une émission de télé-réalité chez
ah,
vous.
Ah, il est belge.
Ah oui.
Oui, si, je pense que Sénat, oui, il est belge.
Pourrais-tu le récupérer, s'il te plaît?
Mais je pense qu'il est revenu en plus. Hein. C'est...
Non, il doit s'en retourner dans sa tombe. Voilà.
Ah, on veut bien te le renvoyer en chronopost si tu veux, hein, mais ça nous dérange pas.
Non, non, mais ça ira.
Non, mais vraiment, on veut le rendre.
On a déjà essayé de me vendre Sarkozy aussi, mais je suis pas d'accord non plus. Ça ne me...
Donc, on passe à la suite et on passe à.
Un chiffre.
Ah, je préfère te laisser faire, Shinji, c'est ton domaine.
Un chiffre.
Je voudrais pas être accusé de piratage.
On va juste appeler le chiffre, hein. Il ne sera ni inutile, ni mystère. Ce sera juste le chiffre cette semaine. Et le chiffre, c'est 1435.
1435.
Et j'ai envie de dire, il a un rapport avec Sénat. C'est pour ça qu'il n'est ni mystère ni inutile.
Est-ce que ça a à voir avec des grands prix?
Oui.
Oui.
Le c'est nombre de tours nombre courus de... par Sénat.
Nombre de tours en tête, j'allais dire, mais
c'est énorme.
Ça serait énorme, oui.
J'aurais dit le nombre de tours courus tout court. Hein.
Nombre de tours en tête, il a... Ah non, d'ailleurs, on dit des bêtises parce que il a parcouru 2931 tours en tête, soit le deuxième plus gros total de l'histoire de la Formule 1. Après avoir mené 86 grands prix sur les 161 dont il a pris le départ. Et il a dû attendre sa première pole position pour signer sa première victoire, mener son premier grand prix. Il a tout fait au même grand prix. Donc 1435.
C'est quand même une distance ou
C'est une distance.
Le nombre de kilomètres fait en tête.
C'est des kilomètres parcourus en tête, mais il faut être plus précis.
En tête d'un grand prix en ne partant pas de la pole position.
Non.
Avec une écurie.
Réfléchissez, 1435, vous savez que c'est des kilomètres. Par rapport à la taille d'un grand prix, combien ça représente de grands prix?
4. 4, 5.
Ouais. À peu près, ouais.
C'est le nombre de kilomètres.
Passé en tête à Monaco.
Non.
J'étais convaincu.
C'est lié à un nombre de victoires successives?
Oui, indirectement.
Donc ce serait le nombre de kilomètres successifs passés en tête?
Effectivement, c'est le nombre de kilomètres parcourus en tête consécutivement entre le Grand Prix de Grande-Bretagne 1988 et le Grand Prix d'Italie de la même année 1988.
C'est un
record. Alors en fait, c'est pas un record parce que quand j'ai cherché sur le site où j'ai cherché, on ne le citera pas, c'était écrit premier.
Ouais.
Et je viens d'aller vérifier, il a perdu sa première place.
Ah.
Au profit de Alberto Ascari. Qui a fait 2070 kilomètres consécutivement en tête entre la Belgique 1952 et les Pays-Bas 1952.
Ce serait quand même le deuxième, donc.
C'est quand même le deuxième.
Oui.
Donc il a pris la tête au milieu du Grand Prix de Grande-Bretagne. Il a, je crois, fait trois pôles, trois victoires de suite sans jamais quitter la tête de la course. Et au Grand Prix des Pays-Bas, bah, il a abandonné, à un moment donné, la tête après 1435 kilomètres. Ce qui va donc pouvoir nous permettre de vous poser cette question fondamentale, puisque je l'ai un peu dit tout à l'heure, Ayrton Senna, malheureusement, c'est un pilote dont on reconnaît le génie et le talent, et pourtant, il n'a pas forcément le palmarès qui est à la hauteur de ce talent, notamment parce qu'il y a un ogre allemand qui est passé par là. La question, c'est de savoir quels sont aujourd'hui les records que détient Ayrton Senna.
Le nombre de victoires à Monaco.
Oui, si, effectivement. C'est pas le seul Grand Prix où il a été entre guillemets dominateur à ce point, puisque il a par exemple trois victoires à Détroit, où il est celui qui compte le plus de victoires à Détroit. Il est aussi premier ex-aequo avec Piquet au nombre de victoires à Hockenheim, trois victoires. Donc voilà un record que n'aura pas Michael Schumacher. Il est premier à Adélaïde, un circuit donc qui semblait bien aimé, ex-aequo avec Prost et Berger, deux victoires. Il est bien évidemment premier à Donington, hein, où il est d'ailleurs le seul et unique vainqueur. Il est premier ex aequo avec Prost à Jerez, où il compte deux victoires. Il est premier avec deux victoires sur trois courses disputées à Phoenix. Et voilà pour ses records sur des grands prix, à signaler quand même sur des circuits un peu emblématiques. Il compte cinq victoires à Spa, où il n'est cependant que deuxième. Il compte trois victoires à Imola, où il est deuxième ex aequo avec Prost au nombre de victoires. Au Hungaroring, trois victoires aussi, il est deuxième au nombre de victoires. Interlagos, chez lui, il est deuxième ex aequo avec Fittipaldi, Häkkinen, Montoya et Massa, qui ont tous deux victoires chacun. À Montréal, il est troisième ex aequo avec Jones et Hamilton, qui ont chacun deux victoires. À Suzuka, Il est deuxième ex-aequo avec Berger, Hill, Häkkinen et Vettel, qui compte 2 victoires. Et voilà. Voilà un peu pour les circuits où il est fort.
Ça en fait déjà pas mal. Hein.
Ouais.
On va signaler qu'il a gagné sa première victoire. Est-ce que vous savez où il a gagné sa première victoire ?
En Afrique du Sud.
Non.
Ah non, c'était ses premiers points, ça.
Premier point en Afrique du Sud au deuxième Grand Prix.
C'était à sa première pole.
Effectivement.
Et je me rappelle plus où.
Première pole, première victoire.
Un Grand Prix où il a failli finir à poil.
C'est pas au Portugal, sa première victoire ?
Oui, c'est au Portugal.
Ah oui, à poil, Portugal, oui.
J'ai honte de cet indice. Je suis désolé.
Tu dois en poil.
Je n'aimais même pas cette vanne de merde qui m'a mis sur la voie.
C'est pas grave, je la couperai au montage, ta réponse aura l'air plus intelligente. Donc, effectivement, il a le record du nombre de victoires à Monaco, mais il a d'autres records.
Il a le meilleur ratio entre les pôles par rapport aux courses faites.
Donc il est deuxième au nombre de pôles, on l'a dit tout à l'heure, hein. Schumacher en a 68, Senna en a 65. Il a battu le record de 33 pôles établi par Jim Clark au Grand Prix des États-Unis en 89. Et il a perdu à l'occasion du Grand Prix de Saint-Marin 2006, où Schumacher signait sa 66e pôle. Là où Senna avait signé sa dernière pole position en 1994 à Imola, sa 65e pôle. En termes de pourcentage, pourtant, il n'est pas premier. Il est quatrième avec 40%, 40,37% de pôle. Je crois que ceux qui sont devant, c'est Ascari, Fangio, etc., qui ont des cartes très courtes, mais un nombre de pôles en moyenne qui est bien supérieur. C'est le problème du ratio. Mais il a un record quant aux pôles, effectivement.
Même deux,
ouais.
Le nombre de pôles successives. Le nombre de pôles successives.
Oui. Donc, de Espagne 88 à États-Unis 89. Ce qui doit faire quand même facilement.
Je crois que c'est 8 pôles.
C'est pas 7, puisqu'on en a parlé pour Vettel.
Je pense qu'on a parlé du nombre de victoires. Le dernier fait 7, c'est Schumacher.
C'est 8 pôles consécutives pour Senna. À savoir qu'il a aussi fait 7 pôles consécutives entre l'Espagne 90 et Monaco 91. Là, il est à cet endroit-là, il est deuxième ex-aequo avec Prost et Schumacher. Et à noter qu'il a aussi fait 2 fois 6 pôles consécutives. Enfin voilà, quand il fait des pôles, il les aligne un peu comme des perles. Hein.
On parlait de ratio tantôt au niveau des podiums par rapport au nombre d'engagements. Sinon, il a 80 podiums pour 161 participations.
Alors, nombre de podiums, il en a 80. Donc, premier dès son 5e Grand Prix. C'est le 3e en nombre de podiums. Par contre, j'ai pas le ratio.
Bah, sur deux presque. Ce serait pas à tout hasard le nombre de victoires en partant de la tête ?
Non.
Le nombre d'accrochages litigieux avec le même pilote.
ça, il doit avoir un record.
On parlait de Suzuka tout à l'heure. Hein.
Dans le domaine de la poule, hein.
La poule.
Moi, j'ai compté, en cherchant, j'ai compté 4 records. Il y a 3 records qui concernent la poule.
Le plus gros écart entre le premier et le deuxième ?
Non. Alors c'est vrai qu'il a fait, je crois, 1,5 seconde à Monaco par rapport à Prost, mais Prost lui-même au Castellet en 83 avait mis 2,3 secondes à son coéquipier qui était à l'époque Edith Schiever, je crois.
Le nombre de pôles en une saison.
Il est deuxième derrière Mansell et il a fait Senna. Lui, il a fait 13 pôles sur 16 possibles en 88 et 89. Sachant que Mansell, lui, son record, il l'a établi en 92, l'année de son sacre, où la Williams dominait trageusement tout le plateau.
Sachant que Vettel devrait bouger le record cette année.
Non, toujours sur la pole.
Ah, c'est vraiment des records très... c'est vraiment pour chercher des records.
Ouais. Disons peut-être déjà, ne cherchez plus pole par rapport à une saison.
C'est par rapport à autre chose.
À sa carrière ?
Non.
À la durée de sa carrière ?
Non.
Par rapport à ses coéquipiers ?
Non.
Par Grand Prix, le nombre de pôles sur un même circuit.
Oui, effectivement.
Monaco.
C'est à Saint-Marin.
Il y a plus qu'à trouver. Voilà, j'allais dire, il y a plus qu'à trouver le circuit, mais.
Oui, effectivement, j'aurais pu vous laisser deviner, ça aurait été drôle. Allez, devinez sur quel circuit c'est.
Saint-Marin.
Effectivement, c'est à Saint-Marin où il a réalisé 8 pôles et il est premier ex-aequo avec Schumacher qui, je crois, a fait 8 pôles. Ah, tiens, devinez où il a fait 8 pôles, Schumacher.
Monza. C'est pas Francorchamps.
Non, passe pas.
C'est pas à Imola aussi. Il a fait non.
Non.
À Suzuka.
À Suzuka, effectivement. Il a fait 8 pôles à Suzuka, dont je crois d'ailleurs sa dernière pole en 2006, qui était à Suzuka, je crois aussi. J'ai un doute. Ou alors c'était peut-être en Chine, sa dernière pole.
Ouais, ça restera à 8.
Et donc il y a un autre record, donc vous avez trouvé deux records par rapport à la pole, et il y a un autre record, toujours par rapport à la pole, et on peut dire par rapport à un circuit.
Oui, aussi.
Plus grand nombre de pôles à domicile.
Effectivement.
Oui.
Pour un Grand Prix national, donc le Grand Prix du Brésil, 6 pôles positions. Ce qui même par rapport à un Grand Prix particulier est déjà très élevé. Parce que ce soit à 7 ou à 8, ah non, c'était pas les Grands Prix nationaux.
Voilà. Donc il a fait 6 pôles positions au Brésil.
6 pôles positions au Brésil.
Et donc dans le reste, bah il arrive deuxième. Donc on a par exemple, il est deuxième au nombre de première ligne, 87, devant Prost pour une première ligne. Bon, quand même, quand on voit 65 pôles et 87 premières lignes, c'est quand même un pilote qui s'est quand même beaucoup plus souvent battu pour la pole qu'il l'a perdu, en fait. il a la troisième meilleure position moyenne sur la grille avec 3,15. Sinon, qu'est-ce qu'on peut signaler d'autre? C'est pas le plus jeune poleman, c'est le 15e plus jeune poleman puisqu'il a signé sa première pole donc au Portugal en 85 à 25 ans et un mois.
Mais maintenant, vu que les pilotes arrivent de plus en plus jeunes, c'est bien.
Voilà.
Oui.
De toute façon, si tu cherches record de précocité, tu dis Vettel. T'as quasiment
Vettel, Senna, bon. Hamilton, Alonso.
Vettel, Hamilton,
Alonso. Ah, on peut dire, Senna a un record de précocité. Voilà. Que n'ont pas les autres.
Qu'il a.
Quel record de précocité peut-il encore avoir?
Être le premier plus jeune pilote.
Non.
Non.
Puisque c'était Fittipaldi qui a été plus jeune pilote avant lui. Record qui a été battu par Alonso, Hamilton et Vettel depuis. Enfin, plus jeune champion du
champion
monde.
Champion du monde,
ouais. Plus jeune pilote, il y en a eu des beaucoup plus jeunes.
Un des premiers pilotes à être parti de son écurie après. Ah bah non, après un titre, mais non, on avait déjà parlé de la dernière mission.
Et c'est un record qui par nature ne concerne pas beaucoup de monde.
Oui, il n'en concerne que 5.
Voilà.
Même pas, je dis des bêtises, il en concerne 5, 6, 7, 8.
On peut avoir les noms.
Non.
C'est pas du jeu.
D'ailleurs, faut que je regarde qui pourrait l'avoir, ce record.
Oh, bah, on se doute déjà qui.
Les titres de champion du monde consécutifs.
Non. Mais c'est un rapport avec les titres de champion du monde.
Bah, oui, les 8 personnes, ceux qui ont eu 3 titres de champion du monde.
Oui, donc.
Ils ont 3 titres et plus.
Ouais.
Oui c'est vrai.
Ils ont tous pour point commun d'avoir eu 3 titres. À un moment donné de leur carrière.
Donc.
Avec la même équipe.
En plus, ils ont trouvé l'autre.
Le plus vieux.
On leur a donné un bout de la réponse, ils ont trouvé l'autre bout, mais ils ont pas remis les deux ensemble.
Et le plus jeune à avoir eu 3 titres.
Voilà, c'est le plus jeune triple champion, puisqu'il a été triple champion à 31 ans, 6 mois et 29 jours.
Ah, dans 2 ans, c'est bon, c'est réglé.
Donc voilà, à savoir que le plus jeune double champion du monde de l'histoire, c'est Fernando Alonso. Et le plus jeune champion du monde de l'histoire, c'est Sébastien Vettel.
Enfin, Alonso, il est pas prêt de tripler la mise pour l'instant, hein.
Non, mais il pourrait battre.
Alonso peut encore, Hamilton peut, je pense.
Bah, Hamilton et Vettel le peuvent, hein. 31 ans pour Senna.
Ah, Rosberg aussi, hein. Bon. Dans l'hypothèse.
Paris aussi.
Voilà. Il y en a beaucoup qui peuvent. Mais il y en a
mais
beaucoup
pour
qui
Cartier font. C'est mort. Mais ça, on s'en doutait un petit peu.
Je dis, celui qui pourrait le plus viser, c'est Bourdet.
Quand même. Bah non, lui, il peut plus, hein. Je sais pas, il a 34
ans. Ah, oui. Mais...
Il n'y a pas tant de que ça qui peuvent.
Donc voilà un peu pour les principaux records. Je sais pas si t'en vois dans la liste, Shinji, qui sont importants. Ah oui, moi j'en ai un qui est assez intéressant puisque en plus il va avoir des conséquences lors des deux prochains Grands Prix puisque Ayrton Senna est le 22e pilote le plus actif en Formule 1 avec donc 161 départs. Il a fait son premier Grand Prix au Brésil en 1984. Tout juste 4 jours après avoir fêté ses 24 ans, donc quand même un beau cadeau d'anniversaire que de faire ses débuts en Formule 1 devant son public. Et il faut signaler qu'il y a un pilote actuellement qui compte 161 départs, c'est Fernando Alonso. Donc en Turquie, Fernando Alonso passera devant Ayrton Senna dans ce chiffre. Et en Espagne, Marc Weber le dépassera à son tour, puisque Marc Weber a actuellement 160 départs. Il en aura donc 161 tout comme Senna en Turquie et il prendra son 162e départ en Espagne. Et après, Senna devrait plus bouger avant au moins 2 saisons puisque le prochain c'est Felipe Massa avec 130 départs. Il a aussi ah ouais, j'ai oublié, il a un autre record. lié à la pole aussi.
Vas-y.
Il a le record plus grand nombre de pôles sans victoire.
Ah oui.
36. Il a fait 36 pôles qu'il n'a pas converti en victoire. Il a quasiment une pôle sur deux qu'il n'a pas converti en victoire.
Ça fait quand même beaucoup, quoi.
Alors qu'il a fait donc 29 doublés pôles victoire. Il est deuxième derrière Schumacher, bien évidemment. Donc voilà, voilà. C'est à peu près tout pour les records d'Ayrton Senna, pour la trace qu'il laisse dans l'histoire.
Alors, ce que j'aime bien comme chiffre, c'est en termes de Grand Prix avant la première victoire, il a mis 16 Grands Prix avant sa victoire au Portugal. Ce qui aujourd'hui paraît peut-être un petit chiffre, c'est même pas une saison. Eh ben, 16 Grands Prix, il est que 38e.
Oui.
Voilà, c'est tout. Petite remarque.
Alors, on va passer à la question suivante, messieurs, et ce sera un petit quiz audio. On va vous passer un petit extrait d'un commentaire brésilien. Et vous allez devoir essayer de trouver des indices dans ce commentaire pour nous dire de quel événement il s'agit et essayer de deviner ce que l'on va développer après à partir de cet événement. Vous avez compris ou pas?
Ouais. Il faut qu'on devine de quoi on parle, quoi.
Voilà, voilà. Tout à fait. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. En fait, ils sont bien, les Belges.
Ouais.
Donc c'est un extrait assez long, donc soyez bien attentifs à tout ce qui peut être dit. À moins que vous parliez portugais ou brésilien, vous comprendrez sans doute pas grand-chose. Voilà, mais il y a des petits indices qui peuvent vous aider.
Aí Senna, aponta na reta para completar a volta de número 75. Vai receber o aviso de uma volta pro final da prova. Completa 75 voltas aí com Senna e você vai com ele. Porque ele mostrou que uma corrida se ganha desde o início. Quando mergulhou e foi para cima de todo mundo. Quando passou por Wendlinger, passou por Rio, passou por Prost. Tudo isso na primeira volta. Quando segurou o carro na chuva com o pneu liso. O Prost parava, botava biscoito. Parava, botava liso. Parava, botava biscoito de novo. E o Senna ia tocando, segurando, levando. Aí vem Senna. Nas últimas curvas, com todo cuidado. Senna que tem 16 pontos no Mundial. E pode pular para 26. Aí vem Senna na última volta. O Prost é o segundo, tem 10 pontos. Por enquanto tem a terceira posição. Aí vem Senna para o Herpin. O primeiro é para a direita. O segundo é para a esquerda. Aí vem o Brasil na frente, Ayrton Senna. Vai apontar na reta. Com todo cuidado, com muito cuidado na ponta dos dedos, Senna. Vai apontando Ayrton Senna. Vem para completar. Ayrton Senna.
Brasil.
Dá um show. Vibra Senna. Impressionante. Talvez uma performance ainda mais fantástica do que a do Grande Prêmio do Brasil. Porque tem que ser um monstro. Tem que ser um gênio. Tem que ser de outro planeta para dirigir na chuva, com pneu liso e andar mais rápido do que quem vem com pneu biscoito. Para negociar cada ultrapassagem, para deixar os retardatários, para deixar a encrenca para o outro. Ele quer uma bandeira, ele quer uma bandeira para fazer a festa. Ayrton Senna para seu carro. Ele deu um show completo no seco, no molhado, na estratégia, no ar.
Alors,
la victoire, enfin le moment où Senna dépasse Prost en 1988.
Mais effectivement, il a bien dépassé Prost. T'as bien entendu un des indices.
Et j'ai entendu Senna, viva Senna, Prost, tragedia. En gros, il y a une tragédie qui implique Prost et Senna.
Non. Non.
Il me semble avoir entendu Schumacher, mais alors là, je suis pas sûr du tout.
J'ai cru.
Ah, c'est pas Schumacher, mais c'est le même pays et ça finit un peu de la même manière.
C'est peut-être pour ça alors.
Bon, je peux peut-être vous le dire, c'est Wendlinger.
Ah, t'es sûr.
Ça ne nous aide absolument pas, mais c'est pas grave.
Carl, pourtant, c'est un super bon indice. Qui connaîtra d'ailleurs, je crois, Wendlinger à son tour un gros crash en 94. Qui, si je dis pas de bêtises, a mis une fin à sa carrière, en tout cas en Formule 1. C'est bon, 94 est une année quand même très sombre.
C'était pas un des premiers Grands Prix de la saison. C'était en 92-93, je crois.
92-93, oui. Et c'est effectivement un des premiers Grands Prix de la saison. 92 ou 93.
Portugal?
Pas Portugal. Alors, un indice, c'est que c'est le dernier tour de cette course, même si dedans les indices qui vous sont donnés ont plutôt rapport avec le premier tour qui est rentré dans la légende.
C'est à Donington en 93.
Et voilà, c'est sa victoire à Donington en 93. Et savez-vous pourquoi, donc, au départ, il passe justement Wendlinger, Prost et Hill, je crois.
Il avait pas calé.
Au départ, non. Non, il part. Ah, peut-être. En tout cas, il part quatrième. Et, en 5-6 virages, sous la pluie, avec des pneus slick, il remonte les quatre pilotes et on ne reverra plus jamais de la course.
Ouais, c'est la légende de Senna, de toute façon. Pilotage sous la pluie.
Et voilà, c'est justement là où je voulais en venir. C'est qu'on dit souvent que Ayrton Senna est le maître de la pluie. Est-ce que c'est vrai?
C'est... Il a failli gagner à Monaco une année derrière...
Derrière Prost.
Derrière.
En 84.
Il l'avait, ouais, il l'avait dépassé. D'ailleurs, la course a été arrêtée et à l'époque c'était...
Mais il s'est retrouvé aussi derrière une fois, derrière Lauda, non? Toujours à Monaco.
Alors je sais qu'en 84 à Monaco, il remonte avec la Tolman, derrière Prost, alors après je sais plus s'il
l'a
dépassé, je crois pas.
Il le passe.
Il le passe.
Il le passe, mais comme la course est arrêtée, en fait le classement est remonté un peu loin, je pense. C'est un peu comme Raikkonen au Brésil avec Fisichella.
Oui. Ouais.
C'était le tour juste avant.
Sauf que Raikkonen l'a eu beaucoup moins mauvaise que Senna, mais bon.
Donc d'après vous, est-ce que cette réputation, est-ce que Donington est symbolique de la domination d'Ayrton Senna sur la pluie?
Sachant que j'ai vu très peu de Grand Prix de lui, voire même peut-être aucun, je me tâte à m'exprimer dessus.
Oh, feeling.
C'est pareil, celui-là j'ai jamais vu, donc
Je dirais que oui quand même, un petit peu. Hein.
Eh ben la réponse c'est oui et non.
Ah. Oh, l'ascenseur émotionnel.
Alors, je dirais que ça n'est pas le maître, mais c'est l'un des deux maîtres sous la pluie.
Avec Michael Schumacher.
Avec Michael Schumacher, puisque donc j'ai regardé les statistiques depuis 1982, j'ai dénombré qu'il y avait eu 64 courses qui avaient été perturbées par la pluie depuis 1982. Sur ces 64 courses, Schumacher en a gagné 15. Et Ayrton Senna en a gagné 12, y compris leur victoire. Schumacher est monté à 23 reprises sur le podium, lorsque la course est disputée sous la pluie, donc sur 192 podiums possibles, où Senna s'est imposé 13 fois sur le podium. C'est-à-dire que là, il y a une fois où il a fini sur le podium sans gagner.
Bah, c'était à Monaco 84.
C'était à Monaco 84, effectivement.
Pour donner un peu l'écart, en troisième, alors ils sont...
Essayez de deviner qui c'est.
Qui y a?
Ils sont ex-aequo.
Ils sont trois. Qui peut bien y avoir en troisième ex-aequo?
Qui peut être la relève?
Sébastien Vettel?
Non.
Non.
Alors Sébastien Vettel, c'est un pilote récent. Il en a gagné deux sous la pluie. Et il a fait deux podiums.
C'est un pilote récent?
C'est cette victoire.
Hamilton?
Il y a deux pilotes récents. Hamilton. Il y a effectivement Hamilton qui a fait quatre victoires pour sept podiums.
Donc, voilà, les trois sont à quatre victoires et sept podiums.
Button, Alonso.
Alors Button qui a fait 4 victoires sous la pluie, ce qui est quand même assez énorme quand on pense au nombre de victoires de Button, hein. Je crois qu'il en a 8. C'est-à-dire une course sur deux, il l'a gagné sous la pluie.
Bah, ces deux courses l'an passé, c'est sous la pluie, si je dis
oui,
pas.
Non, là, sa première victoire en 2006.
Oui, aussi.
Oui.
Et puis le Grand Prix de Malaisie en 2009.
Ah, on devrait mettre 3,5 alors.
Et comme Hamilton, effectivement, il a fait 7 podiums. J'ai entendu Alonso. Alonso, il a 2 victoires sous la pluie, dont une victoire la plus, celle qui a le plus marqué, c'est peut-être la victoire au Nürburgring en 2007. Mais donc, vous avez dit Button et Hamilton. Il nous en manque un troisième qui
Barrichello.
Qui est de même nationalité, on peut dire.
Peut-être Coulthard.
Coulthard, il a une victoire sous la pluie. Je crois que c'est à Spa, peut-être, pour 6 podiums.
Il est encore en activité ou pas?
Non.
Ah, quoi qu'il est encore impliqué en Formule 1. Mais il peut plus gagner le Grand Prix. Même s'il en fait au moins un par saison.
Au moins un par saison, hein?
Bah, il fait au moins un Grand Prix par saison.
Mais pas dans une voiture.
Mais il en dispute aucun.
Oh, ça serait pas le pilote de la safety car?
Non.
Non.
On sait jamais, hein. Ça peut passer.
Il a une belle chevelure. Je trouve qu'avec l'âge, il a une magnifique chevelure.
Et un beau bouc.
Et un beau bouc.
Mais pas l'animal. Ni l'émissaire.
Il,
tout à fait. C'est il, hein. Donc on a en tête sous la pluie, on a 15 victoires Schumacher, 12 pour Senna, et loin derrière en troisième position, ex aequo, Button, Hamilton et il avec chacun 4 victoires.
Tu te rends compte que pour il, on a dû aller jusqu'au chevet au bouc pour qu'il trouve.
C'est vrai, je sais, c'est... c'est triste.
Triste.
Non, mais moi, il demande, quand j'ai commencé à regarder la F1, il pleurait avant de monter dedans, donc voilà.
À noter que il devance Mansell qui a 3 victoires sous la pluie, donc c'est 4 pilotes britanniques juste derrière. En même temps, faut dire, c'est un petit peu leurs conditions d'entraînement. Hein. Bah, y a pas vraiment d'autres pilotes qui soient. Oui, on a Alesi par exemple qui a 7 podiums et aucune victoire sous la pluie. Weber, 3 podiums.
Alesi, il a le record de nombre de petits pots avec des graviers différents de différents circuits chez lui.
C'est le record du nombre d'amendes pris avec des voitures de tourisme.
Prost, il n'a que 2 victoires.
Ouais, pour 10 podiums, pour 10 podiums, normal, à chaque fois, il finissait.
Derrière,
c'est souvent. C'est un peu le problème de Prost, c'est que Prost est bon sous la pluie, mais il était à côté de Senna qui était encore meilleur. Donc. et donc, je me suis un petit peu intéressé, parce que bon, c'est bien de voir le nombre de victoires. Maintenant, faut voir aussi par rapport aux périodes où ces pilotes ont roulé, pour vraiment juger. C'est pas entre eux qu'il faut les comparer, mais c'est à l'époque de Senna. Est-ce que vraiment Senna, quand il roulait, il était le meilleur? Donc, je me suis intéressé aux 4 premiers, hein, qu'on a cités, Schumacher, Senna, qui incarnent chacun 2 époques, et Hamilton et Button, qui incarnent la période post- post-Schumacher, même si Button a commencé bien avant, mais il a commencé à gagner vraiment après Schumacher.
Merci le double diffuseur.
Donc, dans la carrière d'Ayrton Senna, il y a eu 21 Grands Prix qui se sont disputés sous la pluie, il en a remporté 12, ce qui fait quand même un taux de 57% des Grands Prix disputés sous la pluie à l'époque de Senna ont été remportés par Senna. Schumacher, quant à lui, a disputé 36 Grands Prix sous la pluie. Il en a remporté 15, ce qui veut dire qu'à l'époque de Schumacher, 42% des Grands Prix disputés sous la pluie ont été remportés par Michael Schumacher. Là où ça devient intéressant, c'est quand on aborde les deux plus récents, Hamilton et Button. Hamilton, il a disputé donc 14 Grands Prix sous la pluie. Il en a remporté 4, ce qui lui fait un taux de 29%, donc il est sur de très bonnes bases. Tandis que Button... Lui qui a disputé sur une carrière plus longue 29 Grands Prix sous la pluie, il en a gagné 4, soit un taux de 14% de réussite. Donc, on peut dire qu'en nombre de victoires, Schumacher est le meilleur, mais que par rapport à leurs époques respectives, Senna est incontestablement le maître de la pluie à son époque, c'est-à-dire entre 1984 et 1994.
Mais à voir aussi ce que ça aurait pu donner s'il n'y avait pas eu cet accident. Parce que si Senna avait continué, ça aurait pu durer. Hein.
Oh oui, oui.
Oui, et puis il y a aussi tout le système des aides sur la mauvaise place. Il y en a qui en avaient à certains moments, il y en a qui n'avaient pas, voilà quoi.
C'est là aussi ce qui est symbolique en 93, même si en 93 il y a plein d'aides électroniques en Formule 1 qui vont d'ailleurs être introduites en 94, ce qui explique que c'est une année avec beaucoup d'accidents parce qu'il n'y avait plus les mêmes aides électroniques.
Ouais, c'est-à-dire introduites.
Oui, interdites. Lors de la victoire de Donington, Senna fait la course avec des pneus slick, alors qu'il tombe des trompes d'eau. Alors qu'au même moment, Prost rentre au stand changer de pneus, il ressort, il re-rentre pour remettre des slicks parce que ça commence à sécher. Voilà, il hésite. Lui, Senna, un peu à l'image d'un Rubens Barrichello pour sa première victoire en 2002 à Hockenheim, il est resté sur son jeu de pneus, même les slicks, il a fait sa course et il a gagné de façon absolument incroyable, quoi. Enfin, pour avoir vécu la victoire de Barrichello en 2002, j'imagine ce que ça a dû être d'être devant sa télévision à Donington en 93. Donc voilà un petit peu pour cette analyse rapide, mais nous l'espérons instructive. Alors là, on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait dire sur l'héritage de Senna, etc. On va essayer de finir sur des quelques citations qu'on va vous demander de reconnaître.
Alors, qui a dit ? C'était vraiment un drôle de type, habité par l'obsession de gagner. Il était sacrément rapide. Je suis fier de l'avoir battu quelques fois, d'autant plus en regardant le parcours qui fut le sien.
Nigel Mansell ?
Non. Host. Non. Et on ne donne pas d'indice, je dis. Hein.
Non.
C'est trop facile.
Schumacher ?
Non.
En même temps, j'ai la réponse, je sais pas qui c'est, donc je peux pas donner d'indice.
Alors, si Shinji ne sait pas qui c'est, on est mal barré. Hein.
Ouais.
Alors, un pilote pas connu.
C'est un pilote pas connu.
Bon, moi je vais me prendre un café noir sans sucre pendant que vous cherchez la réponse.
Donc alors ce pilote, je peux même vous dire le nom hein, du pilote, hein, ça vous aidera pas plus. Hein, le pilote qui a dit ça, c'est Terry Fullerton.
Attention.
D'accord.
Ah non, ce qui est intéressant, c'est...
Qui est-il?
Qui est-il pour Senna? D'ailleurs, toi aussi, Shinji, tu peux jouer, vu que tu ne sais pas qui c'est.
Est-ce que c'était un pilote qui a été longtemps en concurrence avec lui?
Temps, oui, assez.
C'est un coéquipier?
C'est
pas un coéquipier.
C'était un pilote qui était contre lui en karting. Le champion du monde... Enfin, le champion de karting quand lui était vice-champion.
Ouais, c'est son plus grand rival en karting, oui. Alors après, je sais pas si c'est lui qui a été champion du monde devant Senna, mais en tout cas, c'est un pilote de karting. Il y a deux catégories de pilotes de karting. Pour résumer rapidement, il y a ceux qui vont faire du, il y a ceux qui vont faire du karting puis qui après vont passer en monoplace, et il y a ceux qui vont ne faire que du karting, enfin qui vont faire toute leur carrière en karting. Pas qu'ils soient mauvais, mais juste parce que ils n'ont pas forcément les opportunités pour monter ou ni le temps ni forcément l'envie parfois de monter en monoplace. Puisqu'il faut le rappeler que le karting n'est pas une filière de formation, mais que c'est un sport à part, hein, c'est une branche à part du sport auto. Ce qui est intéressant, c'est pour Ayrton Senna, c'est son rival en karting, mais c'est ce qui est intéressant, c'est pour Ayrton Senna, qu'est-ce que c'est que ce pilote?
Son formateur?
Non.
Son meilleur ami?
Pas son meilleur ami.
Son premier ami?
Pas son premier ami.
Son seul ami, on va tout faire comme ça. Hein.
Ce n'est pas un ami.
Son ami,
quelqu'un de sa famille.
C'est une sorte d'ennemi.
Son rival.
Oui. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce rival?
Il est méchant.
Il l'a battu.
Question con, réponse con, je dois l'admettre. J'avoue qu'avec cette question, je la cherche.
Tu nous as trouvé.
Qu'est-ce que peut dire Ayrton Senna de ce pilote, de son rival?
Il est mauvais.
Frère.
Qu'il est content d'avoir terminé devant lui quelques fois.
Non, ça c'est Fullerton qui dit ça.
Que ça le saoule d'avoir été derrière lui quelques fois.
Non.
Grâce à lui, il a pu accéder à la Formule 1.
Non, que c'est son plus grand adversaire, enfin son adversaire le plus...
Voilà, on a demandé un jour à Ayrton Senna, qui venait de battre, je crois, Alain Prost pour la conquête du titre, il vient de devenir champion du monde, et un journaliste lui demande, Ayrton, qui est ton plus grand adversaire? Et Ayrton fournit cette réponse qui est absolument incroyable, il dit c'est un pilote dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, et que vous ne verrez sans doute jamais en Formule 1, il s'appelle Terry Fullerton. Et donc il a qualifié cet anonyme du grand public, Terry Fullerton, il l'a qualifié de plus grand Ayrton, plus grand rival d'Ayrton Senna, et pas plus grand Ayrton de rival Senna, ce qui n'a aucun sens. Hein. Donc voilà, c'est un peu de provocation de sa part, surtout au moment où on lui pose la question. C'est un petit peu dire Prost, c'est pas mon plus grand adversaire. Mais c'est aussi traduire aussi une sorte d'un... C'est un discours qui a souvent été vu chez Senna. Il a souvent regretté dans les interviews, parfois, l'ambiance de la F1, le côté marketing, etc. Il a souvent, au contraire, mis en avant le fait que ce qui l'intéressait, lui, c'était le combat, aller devant, bref, être le meilleur, gagner à tout prix... Cette citation à la Sylvester Stallone, juste le sentiment de pure victoire. Hein, pour ceux qui ont vu le film Driven, ils savent ce que c'est que la pure victoire. Quoi. C'est...
Si vous trouvez le DVD, pas cher, hein. Faut pas l'acheter cher ce DVD.
Oui, non, non. Bon, à la limite, vous pouvez même le télécharger. Hein. Là, on vous pardonnera. Vu la qualité des effets spéciaux.
Oui.
Donc voilà.
Et là, on va pas parler de la citation, on va dire qui l'a dit, il va falloir trouver la citation. Ça va être plus dur là, je sens. Pourtant, cette personne, c'est pas n'importe qui. C'est Nelson Piquet, le père, hein, pas le fils.
Oui.
Oui, le vrai Piquet, quoi. Le vrai
celui fils. Qui a de l'importance, quoi. Voilà.
Et tout bêtement, selon Nelson Piquet, qui était Ayrton Senna?
Le meilleur pilote de sa décennie. Hein.
Non.
Ah non.
Non. Ah non. Oui, c'est le contraire.
Rappelez-vous, on parle de Nelson Piquet. Hein.
Oui, c'est pas faux.
Le plus grand danger de la F1.
Non.
Pilote le plus agressif, enfin agressif.
Non, c'est plus subtil que ça. C'est Piqué. si on peut oser dire que Piqué est subtil,
je dirais même que ça sort de.
Vu que ça n'a aucun rapport avec la F1.
Voilà. C'est tellement violent que ça part violent. Que ça sort même de la considération F1.
Disons que si Sébastien a l'art de la formule, Nelson est peut-être son maître.
Ouais.
Avec Niki Lauda, accessoirement.
Mais Lauda est hors catégorie, quoi. C'est...
Oui. Alors, Lauda, je, crois Nelson, je crois que Nelson, là, il bat Lauda.
Lauda, c'est un peu le Mourinho de la F1, quoi.
Bon, on peut quand même donner par exemple d'autres citations hein, de Nelson Piquet sur Ayrton Senna. Il a par exemple sous-entendu qu'Ayrton Senna n'aimait pas les femmes en 87. Il a également dit que quand Lotus a eu le moteur Honda, je crois, en 87, il a dit c'est bien comme ça, Ayrton pourra plus se plaindre du moteur. Voilà. Même s'il a eu après des
phrases... C'était un mauvais perdant.
Non. C'est faut quand même se rappeler que Nelson Piquet il a dit il s'est foutu de la gueule du nez de d'Alain Prost, il a dit que la femme de Mansell était moche et grosse, je crois.
Ouais.
Ah voilà, ça c'est quelqu'un qui a beaucoup de classe, enfin,